Bienvenue à l'émission On en jase, votre émission d'actualité du midi. Comme à l'habitude, on va faire un grand tour d'actualité. On va vous parler du coût de l'essence, notamment avec Nicolas Ryan du CAA Québec tout à l'heure. Donc, ça va monter, ça a monté à tout près de 2$. Là. Ça avait monté à 2,09$ dans le coin de Montréal, mesdames. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit... Ciao, bye, on remet ça à 1,99,99 pour empêcher le fameux plafonnement du 2$. Donc, on va changer de ça avec Nicolas Ryan. À quoi s'attendre dans ce long congé de Pâques au niveau du prix de l'essence? Également, on va parler avec Éric Ouellette du conflit au Moyen-Orient. On va revenir dans le caucus avec Antonine Iocarini très, très, très rapidement sur le discours de Donald Trump parce qu'on n'a absolument rien appris hier. Mais on va surtout parler de cette dernière journée au Salon Rouge pour François Legault, premier ministre du Québec. Et dans l'émission, en fin d'émission, un doublé politique, Pascal Paradis, 13h30, où on va parler d'Alain Généreux, ce picosseux qui est rendu le responsable de la DSN. C'est fou le rassurant, il était responsable de Satlick. Donc, c'est vraiment le fun au gouvernement. Quand tu performes, on t'envoie performer ailleurs. Et là, vous comprendrez mon sarcasme. Et on va parler avec Christine Labrie qui a déposé un projet de loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Projet de loi très important sur la garde des enfants. Pourquoi on garderait des enfants attachés à un parent violent? Je trouve ça vraiment intéressant et très d'actualité. Donc, on va parler avec elle aux alentours de 13h40. Sinon, vous le savez, 418-971-101, c'est le numéro pour nous joindre. Au téléphone, 418-780-1021. Le 971-1021, c'est par texto. N'hésitez jamais à interagir avec nous. J'en lis plusieurs en ondes à chaque émission. BLVD.fm, c'est ta web radio. C'est les meilleurs moments que tu retrouves au BLVD.fm. BLVD 102.1, App Store, Google Play Store, c'est l'application. Twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Au parleur intelligent, vous dites écoutez BLVD et on arrive. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, le caucus avec Antonine Iacarini s'y retrouve à chaque jour. Mesdames, comment allez-vous?
Ça va bien. Très bien.
Excellent. Donc, fort simple, on commence comme d'habitude avec quelques manchettes et par la suite, on passe au caucus avec Antonine Iacarini. Pascal, quelles sont les trois principales nouvelles de la journée?
Bien, assurément, c'est le dernier discours à l'Assemblée nationale de François Legault, là, qui est toujours en direct en ce moment, qui fait jaser. On est sur le point de terminer. Ça fait quelques minutes qu'il est entamé. Il y a eu beaucoup aussi de ses collègues, des gens de son équipe qui se sont prononcés. Donc, il a fait ses adieux aux Québécois. Et ce sera également pour la dernière fois qu'il va prendre la parole en chambre à titre de premier ministre. Donc, dernière fois pour ses ministres à l'édifice Honoré Mercier hier pour une réunion qui en a ému plusieurs. On a pu le voir et en constater les effets aujourd'hui. Le prix de l'essence, tu l'as dit, c'est 2$. On a franchi ça pour le litre. Et le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, lui propose d'éliminer temporairement les taxes fédérales sur l'essence et le diesel jusqu'à la fin 2026 pour réduire le prix à la pompe. Sentence reportée pour Locke-Merville. Pourquoi? Ben, son avocate aurait le bras cassé. C'est la raison pour laquelle on a ces informations aujourd'hui. Le prononcé de la peine sur le chanteur Locke-Merville risque... en passant le pénitencier pour agression sexuelle là, qui a fait subir à une jeune femme de 19 ans. C'est reporté de plusieurs semaines en raison des ennuis de santé de son avocate. Et le prix de l'essence est peut-être un peu en corrélation avec ce qui se passe du côté des États-Unis. Et le discours de Donald Trump hier s'adressait à ses citoyens, mais aussi au monde entier. Puis l'Iran l'écoutait. Lui, grossièrement, il a dit qu'on va peut-être quitter l'Iran dans les 2-3 prochaines semaines. D'ici là, on va frapper extrêmement fort. En entendant ça, bien, l'Iran a répliqué aujourd'hui ce qu'on entendait. C'est qu'eux aussi, ils vont frapper extrêmement fort, les États-Unis.
Exactement. On va voir Éric Ouellette, notre spécialiste militaire aux alentours de 12h45, pour parler de tout ça. Place au caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iacarini, c'est du lundi au jeudi de midi à 12h30 à l'émission Nageur sur les ondes de Boulevard 102.1. Anto, ça va bien?
Ça va très bien. Je me suis endormie quelques fois pendant le court discours de Donald Trump, alors je me suis couchée tôt.
Bien, c'est ça. On n'en parlera pas longtemps parce que c'était du réchauffé. On est en train de complètement anéantir l'Iran. Faites-moi confiance, ça va bien aller. Le prix de l'essence...
C'est temporaire.
C'est temporaire.
L'économie va très bien.
L'économie va super bien. Puis, hey, achetez donc du pétrole des États-Unis, le monde tant qu'à y être. Puis, au moins, on n'a pas eu un retrait de l'OTAN. Là. On va se contenter de ça. Là.
En fait, c'est ça. Il n'y avait pas vraiment de nouvelles... qui est ressorti de ce discours-là, à part le fait que ben, il a eu l'air de suivre son discours. Tu sais, des fois, il part dans des grandes envolées, puis on ne sait pas trop où ça s'en va, puis il peut jaser pendant 2 heures. Là.
C'était plus cadré.
C'était plus cadré, un peu. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il s'est finalement résolu là, à s'en tenir à ses discours. Plus court que d'habitude, mais honnêtement, hier, je me disais, puis je le partage avec vous, là, je suis plus dans les états d'âme que dans l'analyse politique comme telle, mais... Je suis tannée.
Ah, moi aussi.
Ça me tente plus de l'écouter.
Sais-tu quoi? Hier, là, quand je voyais Artemis 2 là, foncer vers le ciel, la lune et tout ça, puis je voyais le drapeau américain, je me suis dit, bon Dieu que je m'ennuie de la crédibilité américaine. Ce partenariat-là a fait du bien, du moins au niveau de l'astronomie et de la découverte à l'extérieur. Mais le drapeau, c'est ça. C'est l'image qui m'est venue en tête. Il y a vraiment une crédibilité qui s'est perdue. Il y a quelque chose qui est moins fort.
Oui, puis tu sais, moi, je fais partie des gens, je suis sûre que vous partagez ça, toujours été hyper intéressée par la politique américaine. En fait, j'aime les États-Unis. J'y suis allée d'innombrables fois. J'adore ce pays-là. Donc, c'est pas du tout de l'américanophobie. Mais on dirait que je suis rendue avec une allergie. Là. J'ai une réaction allergique quand il commence avec ses mensonges. Et on perd le fil. Et c'est un vrai défi en passant pour tous les chroniqueurs politiques, analystes, politiques, journalistes aussi. C'est qu'à force de se faire bombarder de mensonges, on manque de temps pour tout les vérifier puis tout contredire. Puis quand on passe notre temps à contredire, il y a des gens qui trouvent qu'on n'est pas objectif envers M. Trump parce qu'on dit juste du négatif. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est vraiment très dur à gérer. Là.
Ah, moi, mon point de rupture est venu avec la mort de la citoyenne américaine tirée à bout portant 4 balles par le policier du ICE qu'on a immédiatement défendu du côté de Trump, J.D. Vance, toute l'administration républicaine. Mon point de rupture est venu là. J'ai dit, quand il parle, je suis tanné parce que c'est toujours, de toute façon, un paquet de mensonges. Puis vraiment, hier, écoute... J'ai écouté les petits highlights, mais je me suis pas attardé à ça. J'étais au Rempart de Québec avec mon fils puis mon père. J'étais bien mieux là qu'à regarder Donald Trump
me
dire encore un
aussi.
Paquet de sottises.
Mais hier, ce qui frappait, puis je sais pas si vous avez eu le même sentiment que moi, du moins, je l'ai écouté en entier, puis il y a quelque chose qui me saisit, c'est... Il y a, je vais le dire avec un bon français respectueux, il a foutu à la marde.
Oui.
OK. Puis là, il dit, dans 2-3 semaines, nous, on s'en va, parce qu'il voit clairement que politiquement, ça passe pas, puis il met beaucoup d'argent là-dedans, puis les négociations vont pas bon train avec l'Iran. Il a fallu qu'il en mente aussi, là, qu'il fasse des mensonges hier sur les négociations avec l'Iran. L'Iran a répliqué, c'est pas vrai, nous, on n'arrête pas ça, il veut pas cesser le feu. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'il va dire, on va se retirer dans 2-3 semaines, d'ici là, on bombarde comme des fous, on va vous anéantir, on va vous retourner au monde arriéré dans lequel vous vivez. Tu penses que l'Iran va faire quoi? Répliquer de la même manière, il vient de l'annoncer. Puis en plus, il a dit, puis le temps en passant, vous arrangerez. Là, arrangez-vous avec vos problèmes pour débloquer le détroit d'Ormuz. Moi, je m'en mêle plus. Il crée des problèmes, puis après ça, il dit, arrangez-vous.
Oui, il a amplifié. Parce qu'il y avait quand même des problèmes avant. Il faut dire que l'Iran qui finance le Hezbollah... Bon, là, Israël est sur tous les fronts en même temps. Mm-hmm. Ça, c'est un autre élément de difficulté qui fait que c'est difficile pour les États-Unis de se retirer.
Un beau fou furieux qui dirige ce pays-là aussi.
Mais le détroit, c'est épouvantable ce qu'il a créé comme complexe.
Le détroit, absolument. C'est comme il veut avoir l'air du héros qui va libérer le détroit. Ça circulait avant. Là.
Non,
détroit,
c'est ça.
Là, juste vous dire. Là.
Avant le 28 février, ça allait bien.
Ça allait correctement. Israël pourrait dire autrement, mais en ce moment, c'est un vrai problème en Israël, en passant, c'est qu'ils commencent à manquer de soldats.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas assez de monde pour alimenter tous les fronts qui sont ouverts en ce moment. C'est quand même bien ben particulier.
Front avec l'Iran, front au Liban, toujours le Hamas en Syrie. À un certain moment
Gaza.
Donné. Ben c'est ça, Hamas, Gaza, là, exactement.
Ça fait énormément de fronts front en même temps. Donc, mais bref, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces discours-là, on les écoute, mais c'est vraiment... on a de la difficulté à retirer quelque chose de tout ça.
En effet, on va passer à quelque chose de plus positif. Puis honnêtement, moi, je veux pas embarquer dans la gang d'animateurs de radio qui aujourd'hui... applaudissent et disent « Parfait, qui décrisse François Legault, bon débarras, t'as rien fait pour nous autres. » Non, j'ai trop de respect pour la fonction de politicien pour embarquer dans ce discours extrémiste-là qui, moi, vient vraiment me chercher dans mes valeurs profondes. OK? Mmh. Puis je m'explique. Vous le savez, je ne suis pas un fan de François Legault parce que j'ai critiqué énormément de ses décisions et de ses prises de position ici à l'antenne de Boulevard 101. Mais s'il y a bien quelque chose, par exemple, sur lequel je suis fan, c'est quelqu'un qui donne 28 ans de sa vie
ben oui.
pour le public. C'est quelqu'un, François Legault ne se levait pas le matin en disant comment je pourrais bien faire chier le Québec. Il se levait le matin en disant comment je pourrais aider le Québec. Et ça, pour moi, François Legault, je vais toujours avoir un respect immense pour ce qu'il a fait. Il a dirigé le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation au PQ. Il a été premier ministre pendant 8 ans. Il a formé son propre parti politique et il l'a amené à la majorité après 7 ans, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la politique. À tous les complotistes, il a géré la pandémie, une situation où on n'avait aucune donnée, on n'avait aucun vécu, puis il a géré du mieux qu'il a pu pour que le Québec s'en sorte. Il a pris, selon moi, à la majorité du temps, de très bonnes décisions. Donc moi, je veux saluer aujourd'hui le premier ministre François Legault, l'homme politique qu'il est, et je veux le remercier pour ses 28 ans passés à l'Assemblée nationale. C'est pas vrai que je vais m'abaisser à devenir un petit animateur de radio qui va dire « Des Chris Legault, c'est une mange-marde! » Jamais de la vie. J'ai beaucoup trop de respect pour les gens et surtout les gens qui donnent leur vie à la politique. C'est un métier de fou. C'est 365 jours par année. C'est du 12, 13, 14, 15, 16 heures par jour. Partout où tu vas, t'es épié. Puis il le fait. Il le fait la tête haute. Il n'a pas toujours pris les bonnes décisions comme n'importe qui. On ne prend pas toujours les bonnes décisions dans notre vie personnelle, dans notre vie de couple, dans notre gestion financière. Mais il a fait de son mieux et je veux le saluer parce que j'ai énormément de respect et je suis très heureux qu'aujourd'hui, ce soit une journée positive pour lui à l'Assemblée nationale.
Oui, puis tu sais, la politique, c'est ingrat. C'est-à-dire que même si tu as donné 30 ans de ta vie, même si tu as fait de ton mieux, ça finit toujours un peu sur une note négative.
Ben oui.
C'est avec le temps où, finalement, on se rend compte que, en fait, on est prêt, après quelques mois ou quelques années qu'un premier ministre ou qu'un chef de parti ait quitté, on est prêt à voir aussi le positif. Parce que là, à la fin, on est plus dans un narratif qui est davantage négatif. Donc, aujourd'hui, c'était son hommage. Effectivement, ça peut faire drôle parce qu'on voit, tu sais, on regarde les sondages puis on reçoit les commentaires des auditeurs, on le sait bien qu'il y a une écœur en titre puis que c'est pas, il n'est pas populaire en ce moment. Mais quand même, là, il y a des accomplissements, cet homme-là. Et moi, si je le dis à chaque fois qu'on parle du départ de M. Legault, moi, je pense que s'il joue bien ses cartes puis qu'il ne joue pas à la belle-mère ou au beau-père, là, peu importe, après, dans les prochaines années, puis qu'il choisit bien dans quoi il s'implique aussi. Les anciens premiers ministres, souvent, vont s'impliquer dans certaines choses, dans certains projets. Des fois, ils vont prendre des prises de parole, etc. Moi, je pense que ça va être un des anciens premiers ministres les plus appréciés de l'histoire du Québec.
Exactement. On va juste rejoindre rapidement Mathias Turcotte, qui est à un point de presse, notre journaliste sur le terrain. Mathias, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Good. Mathias, grosse annonce en termes de logement qui va se faire à 12h30. C'est la ministre Caroline Proulx qui va annoncer le tout.
Oui, j'ai pas le choix de te parler d'un breaking news avant, Jeff. Le maire Marchand serait de retour du côté de la ville de Québec.
Est-ce que tu
as... Confirmation, je l'ai croisé il y a quelques instants.
Est-ce que t'as vu le maire Marchand?
Oui.
Excellent. Oui. Donc, Antonine Pascal, le maire Marchand est de retour.
Est-ce que c'était prévu pour la date d'aujourd'hui ou dans les dernières heures? Ou t'as-tu vu son billet d'avion de retour? Y a-tu décidé de revenir en avance?
Une chose est sûre, c'est que maintenant, il est de retour au grand plaisir de Respect citoyen et de Stéphane Lachance.
Excellent. Donc, Mathias, fais-nous plaisir. Sûrement que le maire Marchand n'aura pas le choix de faire un scrum à la fin de cette annonce-là. Alors, s'il vous plaît, pose-lui la question à savoir si c'est à recommencer, s'il prendrait ses vacances à cette date-ci en plein travaux de tramway.
Oui, 100%. Normalement, là, on va parler à son attaché de presse. On devrait être capable de faire un scrum. Là. Bien hâte de voir l'annonce. On est devant un immeuble en construction sur la rue Saint-François-Est, dans le secteur de Saint-Roch, à grosse bannière de Maison Canada. Le ministre du Logement fédéral qui va être sur place. Donc, peut-être une grosse annonce en termes de logements sociaux pour Québec.
Oui, c'est ce que je m'attends avec la présence de Caroline Proulx. Ça va être gagnant, honnêtement, pour la ville de Québec. On a besoin de logements sociaux et abordables. Merci, Mathias, d'être sur le terrain pour nous. Puis, on t'écoute dans le retour, j'imagine?
Oui, je vais être de passage dans le retour dans l'ordre de 16.
Magnifique! Salut Mathias, merci beaucoup. Salut. Mathias Turcotte, que vous pouvez rejoindre sur citoyen-commercial-blvd.fm. Le maire Marchand qui est de retour à Québec pour cette annonce. Bien hâte de voir ses commentaires. Nadine qui écrit « Tu as raison, Jeff. Respect pour tout ce qu'il a fait le nombre d'années de François Legault en politique. J'ai écouté son allocution et les hommages de certains autres politiciens. Il y avait beaucoup d'émotion à l'Assemblée nationale. Et justement, tôt, je veux continuer le caucus en faisant entendre la fin de l'hommage rendu par Simon Jolin Barrette.
Pour moi, vous serez toujours aussi un mentor et mon premier ministre. Cela aurait été un véritable privilège de servir à vos côtés pour la nation québécoise. Sachez que vous aurez toujours en moi un allié pour continuer à défendre vos idéaux. Monsieur le premier ministre, au nom de votre famille politique et de tous ceux qui ont marché à vos côtés, j'ai l'honneur de vous dire merci. Je vais la reprendre. Merci.
Un hommage humain, un hommage bien senti, un hommage avec énormément d'émotion, il l'avait dit au début.
Il y avait
début,
un peu de
là.
Charisme.
Ouais, il l'avait dit au début, il a fait c'est difficile de le faire. C'était beau. C'était un beau moment. Ça nous rappelle à quel point la politique peut être belle, surtout toi, Anto, tu l'as vécu de l'intérieur. À quel point on devient une grande famille. Tu sais, Simon Jolin Barrette, François Legault, là, c'est son père.
Oui, oui, exact. Puis c'est vrai qu'on n'est pas habitué de voir Simon Jolin Barrette émotif. C'est pas son, disons, son registre habituel. Mais c'est vraiment un mentor pour lui. Simon Jolin Barrette a été élu en 2014 déjà, ça
ouais.
fait 12 ans.
Oui, il en a parlé dans son allocution de « Hey, on a vécu les combats dans l'opposition, après ça, on a vécu des petites victoires, des grandes victoires, on a vécu des chutes ensemble. » C'est quand je dis que c'est son père, François Legault, c'est parce que... Il a dit aussi dans son allocution, la personne avec qui j'ai passé le plus de temps depuis 2014, c'est François Legault.
Oui, puis c'est vrai, tu le disais que ça devient ta famille, les gens avec qui tu travailles. Parce que la politique, c'est pas un job comme les autres. Puis ceux qui ont des amis, par exemple, qui sont partis travailler en politique, le savent, là, ils disparaissent pendant plusieurs années.
Oh oui,
ils négligent les gens autour d'eux. Ils réapparaissent pendant les vacances d'été en disant « Êtes-vous encore mes amis? Voulez-vous que je sois encore partie de la famille? » Parce que c'est vraiment comme... un peu comme dans une télé-réalité où les gens sont mis ensemble 24 heures sur 24 puis ils deviennent amis ou amoureux très rapidement, ben c'est un
parce
peu
c'est
la
intense,
même chose en politique.
Les émotions. Okay.
Très intense. D'ailleurs, il y a des couples qui se forment, d'ailleurs, aussi.
Ben, c'est clair.
Des
couples
qui se défendent, des couples
oui,
qui se font.
Oui, c'est ça. Il y en a qui se font, il y en a qui se défendent. On a vécu ça avec Geneviève Guilbeault et Mathieu Lacombe, justement. Bon, ceci dit, Antonine, tu nous as préparé un medley des meilleures citations de François Legault. C'est un homme drôle, mais j'adore. Avant de passer sur le fait qu'il était drôle, il avait quand même dit quelque chose à son arrivée comme premier ministre que tu veux porter à notre attention.
Oui, première période de questions en 2018 à son arrivée comme premier ministre. La première question lui avait été posée par Pierre Arcan, qui était le chef intérimaire du Parti libéral. Et quand on regarde ça maintenant avec les années qui ont passé, ben, vous me direz si vous trouvez que ça a bien vieilli.
Est-ce que le premier ministre peut dire aux Québécois que malgré les marges de manœuvre historiques dont il dispose, il ne pourra tenir toutes ses promesses.
Monsieur le premier ministre.
De côté. Je pensais que ça serait plus difficile comme question. Je veux rassurer le chef de l'opposition officielle, tous les engagements de la CAQ vont être respectés.
Montage de Radio-Canada, tous les engagements de la CAQ vont être respectés. Ouais, ça a mal vieilli. Hein?
Bon, il y a une couple d'engagements, quelques-uns qui n'ont pas été respectés. Ouais. Depuis quelques années, il y a le polymètre de l'Université Laval qui monitore les promesses. Et la CAQ en a quand même réalisé énormément. Mais c'est le problème, c'est les promesses phares. C'est comme le troisième lien.
C'est ça.
C'est par exemple, d'avoir livré une réforme en santé et donner un médecin de famille à tout le monde. C'est ce genre de promesses-là qui paraissent un peu plus.
plus. Décentraliser le pouvoir ans, aussi,
ouais.
Je trouvais, en général, globalement.
Oui, réduction de la taille de l'État, les maternelles 4 ans. Bref, c'est beaucoup ça qui ressort présentement par texto, puis je vous comprends.
Ben oui.
418-971-101, dire « Hey, là, lâchez-moi la marche à François Legault, le Québec a reculé. » On n'est pas en train de dire que François Legault était le meilleur premier ministre, juste que j'ai énormément de respect pour les gens qui donnent 28 ans de leur vie au service public. Je pense que ça mérite d'être dit. Évidemment, tenez un moment marquant de François Legault. On n'a pas le choix. C'est lors de son premier mandat, la gestion de la fameuse pandémie de la COVID.
Oui, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est sa dernière journée comme premier ministre pendant les travaux parlementaires. C'est-à-dire que la semaine prochaine, M. Legault est encore premier ministre, mais il n'y aura pas de travaux parlementaires, c'est la pause. Et un autre moment où il y a eu une pause, ben, ça a été une pause pas mal plus longue que celle de la semaine de relâche de Pâques, c'est quand la COVID s'est déclarée. Ça a été la fin des travaux parlementaires normaux, mais le début des points de presse quotidiens de la COVID.
On écoute justement un des premiers points de presse.
Donc, je le répète, les prochaines semaines vont être critiques pour la propagation du virus, mais il faut être réaliste, on est dans une crise qui va durer des mois. Donc, il faut se préparer. Je vais, à tous les jours, faire le point avec les Québécois et je suis convaincu qu'on est capable, tous ensemble, de passer au travers de cette épreuve. Merci.
Alors voilà, il annonçait qu'il allait faire des points de presse à tous les jours, des points de presse qui ont duré pendant des mois à 13 heures. On disait tout qu'on allait à la messe de la COVID.
Ouais.
C'était vraiment pas évident. Moi, je travaillais dans le milieu communautaire, dans les banques alimentaires, puis c'était pas évident parce que souvent, on apprenait les règles en direct
exact.
À TV. Mais là, il fallait que je les applique là,
oui.
Pendant que je suis en train de distribuer de la bouffe.
Ouais.
Fait que c'était vraiment pas évident. Là, je me souviens de la fois où, OK, tous les bénévoles de 65 ans, vous les prenez plus. Mais là, moi, je m'en revire d'abord, puis je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, je n'ai 10. Je fais quoi avec eux autres?
On apprenait littéralement de quoi seraient faites nos journées. De quoi auraient l'air nos vies dans les prochains jours dans un point de presse.
Vraiment.
J'ai rarement vu une conférence de presse qui avait autant d'impact sur
ben oui.
Comment tu allais vivre dans tes jours.
Ben, juste les couvre-feux, le temps des fêtes où on
qu'est-ce
nous a dit
permis,
de ne pas être en
pas
famille.
Permis.
Exactement.
Qu'est-ce qui est ouvert?
Oui, les commerces fermés le dimanche.
L'école. T'as-tu
l'école.
Tes enfants avec toi?
Oui, puis ça, j'avais des amis. Ils sont encore mes amis. Là. C'est juste qu'ils sont plus tous directeurs d'école, mais qui étaient directeurs ou directrices d'école. Puis c'est ça, ils capotaient eux autres là, parce qu'ils disaient je m'assois, j'ai pas eu de consigne de mon ministre ou de mon centre de service scolaire, puis c'est François Legault à 13h qui me dit « OK, c'est comme ça que ça va marcher. »
Tu l'apprends en même temps que tout le monde.
Oui.
C'est ainsi.
Puis là, bien évidemment, tous les parents t'envoient des questions alors que tu viens de digérer l'événement, la nouvelle depuis
souvent,
28 secondes.
T'avais le truc général, mais le diable était dans les détails, puis là, les questions fusaient, puis essaye d'avoir...
Ouais.
Essaie de parler au gouvernement pour savoir les détails.
Ben,
il était
ça.
Tellement dans le jus. Donc, drôle d'époque, mais ça a vraiment marqué, c'est sûr, la gestion de la pandémie.
Jusque dans les French et le COVID aussi, là.
Oui, nous gérait jusque dans nos COVID. La pandémie, ça a été un moment très, très marquant pour M. Legault et ça a fait en sorte que ses taux de popularité ont monté. Là, on parlait dans les 90 %. Mm-hmm. Ça a été quand même assez fou. Et ça a fait en sorte, probablement, d'amener ce record de députés, là, 90 députés pour sa réélection en 2022.
Oh oui.
Super majorité. Et après ça, ben, la chute a commencé un peu plus tard en 2023. Ouais, autre chose qui me marque avec M. Legault, c'est que c'est quelqu'un qui se prend pas toujours au sérieux.
Il était drôle.
Il faisait des petits jokes de mon oncle.
Cruella. Hein?
Cruella. Au trésor, mon trésor. Des affaires de même.
Ah, c'est ça.
Y a eu des moments cocasses en chambre. Je sais pas lesquels t'as retenu. Je t'en avais envoyé quelques-uns. Là, fait que...
Ben, écoute, je veux premièrement nous faire entendre. Puis là, je l'ai fait en montage parce qu'on entend la montée de lait d'André Fortin du Parti libéral du Québec qui lui a rendu un très bel hommage.
On n'entend pas son commentaire.
On n'entend pas son commentaire, mais j'ai fait un montage avec le reportage de TVA de l'époque où on entend François Legault en entrevue après. Vous allez comprendre que c'est dans un momentum aussi où on s'en va en élection qui va lui permettre 90 députés, mais on est encore pogné avec la COVID et tous les morts qu'on a sur la conscience.
Alors, M. le Président, que les besoins sont criants au Québec. Sont criants au Québec en santé, en éducation.
Est-ce que je sais. Là, moi. Non, mais. Moi, j'ai.
Député de Montréal, vraiment tout de suite. Non, c'est même pas drôle, M. le Premier ministre. Des propos comme ça ne se tient pas dans cette assemblée-là à propos des collègues.
matin, quand j'ai vu qu'il se levait enfin, je me suis dit, ben enfin, il n'est pas mort, on l'utilise enfin. Donc, c'était positif à l'égard de Pierre.
Oh là là.
Bon, moins à l'égard peut-être de Dominique, mais c'était une mauvaise blague, c'était mal perçu, puis je me suis tout de suite excusé.
Bon, Pierre Arquin était le chef du PLQ par intérim. Dominique Anglade venait d'être nommé chef pour les élections de 2022. Et là, Pierre Arquin, qui avait l'habitude de débattre avec François Legault, débattait plus. C'était André Fortin qui était devenu, comme aujourd'hui, le chef au niveau de l'Assemblée nationale. Puis quand Pierre Arquin s'est levé pour lui poser une question, « Il est pas mort, lui! »
C'est ça. En fait, André Fortin était leader parlementaire à ce moment-là.
C'est ça.
Donc, c'était sa job de défendre le pauvre Pierre Arquin qui fut décédé involontairement par M. Legault.
Puis un petit dernier que j'ai retenu, justement, c'est par rapport, encore une fois, à la mortalité. Mais c'est parce que, tu sais, on sort de la COVID. Il se présente pour nommer son nouveau conseil des ministres et voici ce qu'il avait à dire.
Mesdames, messieurs les nouveaux ministres, mesdames, messieurs les morts, les membres du corps... Il est pas. Ça commence mal. Ah, il est pas mort encore, là.
Donc, c'est ça.
Mesdames, messieurs, les morts.
C'est ça, faisait des lapsus.
Mais d'ailleurs, ça me fait penser que quand les enfants venaient visiter l'Assemblée nationale à l'Halloween, tu sais, des fois, ils recevaient des classes.
Oui.
Il y en avait un qui était exosquelette. Oui. Il avait dit, c'est comme si t'étais mort.
La part de succès aussi, avec l'enfant qui semblait avoir un déguisement de bébé ou je sais pas trop quoi.
Oui,
là,
il y avait des petits moments de malaise comme
c'était tellement conscient pour lui, là.
Exactement. Wow. On va suivre. Penses-tu qu'il pourrait être nommé ministre ou il va rester simple député?
Non, il semble que M. Legault ne veut pas être une distraction pour la suite des choses. Il ne sera pas... On verra le prochain chef de la CAQ et du gouvernement qui va être nommé au Conseil des ministres, mais M. Legault devrait être très discret, rester député jusqu'à la fin de son mandat.
Tu crois-tu? Parce que je pense qu'il est sincère dans ses propos, mais ça doit être difficile pour M. Legault de faire ça.
Bien, récemment, il s'est amélioré quand même, là, parce qu'au début de la course, des fois...
Il prenait position pour un ou l'autre.
Oui, c'est ça.
Là, sans le dire ouvertement.
Il s'entraîne. On va se le dire comme ça. Puis c'est sûr que les journalistes vont peut-être vouloir s'essayer. C'est normal.
Ouais, c'est clair.
Mais
qu'il se tienne loin.
Pas sûr qu'il va être là tous les jours.
Non, c'est sûr qu'il se tienne loin, tout simplement. En terminant ce caucus qu'on a du lundi au jeudi de midi à 12h30 sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase. Antonine, je veux absolument que tu me parles du projet de loi de Christine Labrie qu'elle a déposé aujourd'hui, un projet de loi important concernant justement la garde des enfants. Et on va avoir Mme Labrie en entrevue aux alentours de 13h40.
Oui, c'est un sujet qui est très émotif et tous ceux qui sont passés à travers des séparations plus houleuses en savent quelque chose. C'est difficile d'avoir... Disons, quand on en parle, d'avoir toutes les nuances et de pouvoir parler de tous les cas particuliers. Mais il y a quelque chose qui prévaut au Québec en ce moment, qui est que la DPJ, la Cour familiale, prennent pour acquis que c'est toujours mieux pour un enfant de voir ses deux parents.
Mm-hmm.
Okay. Donc, malheureusement, des fois, il y a un des deux parents qui a fait de la violence conjugale.
Ben écoute, moi, pour l'avoir vécu en centre communautaire, accompagné des familles, en effet, tu sais, des fois, là, tu laisses repartir le petit loup, là. Là, tu sais qu'il s'en va dans les mains de son père qui a sacré des volets à sa femme.
T'sais,
qui n'est plus avec, mais qui a sacré des volets. Puis là, le cœur te fend en
exact.
14.
C'est ça. Puis, dans le fond, le projet de loi de Mme Labrie fera en sorte qu'on ne pourra plus présumer que l'autorité parentale des deux parents est toujours préférable.
Mm-hmm.
Donc, on essaie de rééquilibrer quelque chose ici. Puis quand même, ça peut être assez compliqué. Il y a tout le concept de l'aliénation parentale. Des organismes comme Juripop en parlent depuis plusieurs années, où même des femmes ont peur de dénoncer des actes de violence conjugale pour ne pas être accusées de vouloir monter les enfants contre le père.
Je comprends.
Donc, c'est extrêmement compliqué. Tu pourras en parler avec la députée.
Vraiment.
Mais d'une façon ou d'une autre, est-ce que ce projet de loi-là, qui est assez court, mais pourrait être adopté d'ici la fin de la législature, il faut dire, là, il ne reste pas énormément de semaines de travaux parlementaires. Il va y avoir un remaniement, il va y avoir une prorogation. Est-ce que ce projet de loi pourra être adopté? Il arrive un petit peu tard dans le calendrier parlementaire. Mme Labrie croit que c'est possible parce que c'était une des recommandations aussi du rapport de rétablir la confiance là, qui avait notamment donné lieu à l'établissement des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale. Donc, elle s'attend à ce que les autres parties soient plutôt d'accord. mais ça peut quand même faire débat.
Ouais. Est-ce que on pourrait commencer par faire simple? Putain, moi, je suis un amateur des projets pilotes. Là. Je sais qu'en projet de loi, c'est tough de faire un projet pilote, mais de faire simple pour les gens qui vont avoir été arrêtés ou les gens qui vont avoir été reconnus coupables. Tu sais, pour pas rentrer dans le concept de l'aliénation, là.
Le problème, c'est que je pense que ça crée une inéquité quand tu... En tout cas, je suis pas juriste, mais je pense que tu peux pas... C'est le genre de choses qu'il faut que tu fasses pour tout le monde ou tu le fais pas. Mais,
en effet, t'as raison.
Avec des juristes. Cela dit, l'autre, disons, ce qui est dans la colonne des moins, là, qui pourrait faire en sorte que ce soit adopté ou pas, c'est que des fois, un projet de loi, ça peut sembler simple. Ah, il est court, ça va être facile. Mmh. Mais des fois, les ministères puis le système de justice et tout ça préfèrent... faire des choses dans leur globalité.
Oui.
Parce que ça peut avoir un impact sur plein d'autres éléments. Tu sais, c'est toute une question d'équilibre.
En effet, tu as raison.
Si on décide de jouer dans cet équilibre-là entre les deux parents, ça peut avoir des effets pervers. Donc, bref, dépendamment si ce projet de loi-là sera appelé ou redéposé aussi après la prorogation, parce que tous les projets de loi risquent de retomber à zéro, ben, peut-être qu'il y aura des consultations, on entendra des experts. Moi, je vais être très, très attentive à ceux qui travaillent avec des femmes victimes de violences, des hommes victimes de violences aussi, mais également les avocats en droit de la famille qui voient, qui sont aux premières loges de situations des fois.
Qui sont toujours pognés dans ces situations-là. Puis là, surtout dans des situations aussi, là, puis tu me corriges si je me trompe, là, mais tu sais, de « OK, ouais, je vais porter plainte parce que il m'a battu. » Puis là, c'est vrai, là, la femme s'est faite battre par l'homme. Mais là, l'homme qui contre-attaque avec une plainte.
Exact.
Puis là, ça, moi, je vais porter plainte contre elle pour telle chose. Puis là...
Oui, puis il faut pas non plus négliger le fait que ça arrive, des fausses accusations aussi.
Oui,
alors,
c'est
comment on protège, tu sais, les hommes? Puis, tu sais, on en jasait avant d'entrer en onde, puis on a eu un débat. Puis c'est toi, Jeff, qui m'a fait penser aussi à ça. Faut faire attention parce qu'il y a des gars qui sont corrects, qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui se font accuser de toutes sortes d'affaires, que les enfants se font monter contre leur père, bien... Comment on fait pour protéger les gars corrects aussi à travers ça?
Exactement,
ça coûte cher. Ça coûte cher, se défendre. C'est de l'énergie.
Ouais.
C'est des soupçons qui restent.
Ouais.
Parce qu'après, ça peut parler là, dans les milieux.
Puis c'est dur pour les adultes. Puis j'ai vraiment de la sensibilité à ça. Mais tu sais, moi, ce qui va m'intéresser, puis je vais vraiment suivre le dossier avec attention, c'est que ce soit les enfants qui soient la priorité. Ouais.
Vraiment.
Nous, on est des adultes, on prend nos décisions. Les enfants sont juste 100% des victimes à travers ça.
Les enfants, normalement, ils aiment leurs deux parents. C'est bien de les protéger quand un parent est vraiment violent ou porte atteinte, je crois, à la réputation du père ou de la mère.
Absolument.
Là, avec qui il a eu des enfants.
C'est compliqué.
Mais c'est ça.
Vous faites plus mal aux enfants qu'à votre partenaire au final. Parce que vous voulez atteindre le partenaire là-dedans, tu sais, souvent en tant qu'adulte.
Oui, vraiment.
Ça fait beaucoup plus mal aux enfants.
Ben oui, c'est les enfants qui souffrent là-dedans. Il n'y a pas de doute là-dessus. On parle avec Christine Labrie à 13h40. Bien hâte d'en savoir plus, mais je trouve honnêtement que c'est un pas dans la bonne direction. Je suis vraiment très heureux qu'elle amène ce sujet-là, justement, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. C'est un bon coup de sa part. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, Éric Ouellette, notre spécialiste en conflit militaire, qui va être avec nous pour parler justement de ce qui se passe en Iran et au Moyen-Orient. Et avant ça, Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques au niveau du CAA Québec, va nous parler de la hausse du prix de l'essence. Il attend quoi pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, pour le long congé de Pâques? Vous allez gazer à combien du litre? À 2$, à 2$10, à 1,90$? Nicolas Ryan va tenter de nous démêler le tout à l'émission d'Angers sur Boulevard 101. Boulevard 101, émission d'Angers, ton émission d'actualité où on parle des sujets qui te concernent, que ce soit pour la région de Québec, en politique provinciale ou ailleurs dans le monde. On vient justement de parler de François Legault. Son règne de 8 ans à la tête de la province de Québec, vous en avez pensé quoi? 418-971-1021. À la météo présentement, c'est 4 degrés, alternance de soleil et nuages. Très, 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 très belle journée. Demain, 5 degrés. Puis aux pluies verglaçantes durant la journée. Alors faites attention à vos déplacements en ce long congé de Pâques. Sinon, pour le long congé, 4 degrés alternance de soleil et nuages samedi, 9 degrés avec de la pluie pour dimanche et possibilité d'averses de neige à 2 degrés pour lundi 6 avril. Pascal, circulation?
Oui, faut le dire, bedding-bedang un peu partout là, en ce moment. On ralentit ou c'est glacé, quoi que ce soit, vous avez à signaler 88-971-1021. Moi, ce que je vois, c'est sur Félix Leclerc à la hauteur de la première avenue, direction est, voie de gauche bloquée, il y a une panne, donc service d'urgence sur place. Puis même en direction ouest, la voie de gauche est partiellement entravée. Il y a des débris métalliques qui sont allés jusque dans l'autre direction, soit est, ouest. Là, c'est à faire attention, je rappelle, à la hauteur première avenue sur Félix Leclerc. Sinon, Laurentienne Sud, hauteur boulevard Le Bourgneuf, la voie de droite est bloquée. Il y a un accident. Le remorquage est en cours.
Vous vous dites, qu'est-ce que je fais ce week-end? Qu'est-ce qui va se passer avec ma programmation boulevard? Bien, c'est simple. C'est le long congé de Pâques et c'est 4 jours spéciaux de rock des années 2000. C'est une présentation d'identité Québec. Mais avant qu'on mette la musique dans le piton avec Colosse et Dan de Maine, ça sera l'actualité ne prend pas congé avec Pascal CV et Mathias Turcotte demain matin. De 7h à 10h. Par la suite, tu veux des Killers, tu veux du Linkin Park, tu veux du Muse, du Franz Ferdinand, bien, les plus grands bands, les plus grosses tunes des années 2000, donc de 2000 à 2026 dans le rock, seront joués cette fin de semaine. Dan Caron fera également un garage spécial vendredi le 3 avril de 16h à 20h, ainsi que
c'est-tu
le
lundi.
C'est
de la musique chrétienne, Jeff?
Hein?
C'est de la musique chrétienne pour le congé de Pâques avec
non,
le garage
spécial? Non, pas du tout. C'est du rock à belle planche, Hawaii dans le piton, lève le son, fais sauter les haut-parleurs du char ou d'Alexa chez vous. C'est une bonne que ça marche.
C'est du rock de Satan, finalement.
Exactement. Lundi 6 avril, 16h à 18h, c'est aussi un garage spécial de Dan Caron. On revient avec la programmation parlée à compter de mardi. Et vous mentionnez, vous rappelez l'annonce de ce matin, Catherine Bachand, excellente animatrice radio depuis 25 ans, qui est sur les ondes de Weekend Radio, fait son arrivée à Boulevard. Elle sera avec Max Larouche à compter de mardi de 10h à 11h dans le point de Max. Assez parlé de Boulevard, Pascal CV. Que se passe-t-il dans l'actualité avant qu'on discute du prix de l'essence? Un prix qui décourage énormément de gens à la pompe avec Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques du CAA Québec.
Ça vient d'être annoncé officiellement. Il y a un projet de 55,7 millions de dollars qui sera entièrement consacré au logement social. Ça sera où et ce sera financé par qui? Bien, par le programme fédéral Maison Canada. Tu sais, Maison Canada,
oui,
tu t'en souviens?
Bâtir Maison Canada.
Eh bien, c'est un des premiers au Québec qui vient d'être officialisé là, et annoncé. C'est plus de 15 ans après une démolition de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Rappelez-vous, c'est un projet immobilier de 151 logements. Et ça, ça va voir le jour sur l'îlot du même nom, là, à l'entrée du Vieux-Québec. C'est Radio-Canada qui vient de sortir la nouvelle, mais Mathias, entre autres, pourra nous en parler. Là. Mathias Turcotte, ouais, notre collègue qui est au point de presse, qui va faire un résumé aussi dans le retour cet après-midi. Mais bon, c'est des démarches qui avaient été lancées pour la création d'un centre de la petite enfance de 80 places aussi, là, qu'on a eu comme discussion. C'est d'énormes projets, Jean-François. On en avait énormément besoin à Québec, donc je te dirais que c'est une annonce majeure.
Vraiment. Annonce très, très, très positive pour la ville de Québec. Comme tu l'as dit, Mathias Turcotte va être dans le retour à 16h. Évidemment, parler de cette annonce et aussi parler du fait que le maire Marchand est deux pieds dans la ville de Québec. Enfin, il est là, ce point de presse-là. Et sûrement qu'il va faire là, une petite conférence qu'on appelle dans le jargon un scrum auprès des journalistes et qu'on va le questionner sur son voyage à Paris.
Oui, puis pour le projet, il faut que je dise que l'été, l'automne 2026 qui s'en vient, en fait, ce sera pour les relevés archéologiques et la décontamination du site. Vous savez, ça peut freiner ben, des projets, ces histoires-là.
OK, oui.
Et donc, le début de la construction, c'est pour printemps 2027. Aujourd'hui, c'était la dernière fois où on pouvait entendre François Legault du côté de l'Assemblée nationale. Bye-bye, M. Legault. C'est un peu ça, la thématique de la journée. Hein. Et ses collègues et son conseil se sont montrés très, très émus au Salon Rouge. Les cinq chefs des autres partis vont prendre la parole aussi, dans le fond, tout au long de la journée, parce qu'il y aura des scrums assurés sur cette fin de règne pour M. Legault. Acteur SAQ Click, Alain Généreux, celui qui s'était qualifié de picosseux et perspicace à la commission Galland sur le fiasco SAQ Click, est maintenant directeur des projets stratégiques informatiques au cabinet de la ministre de la Santé et chapeaute, entre autres, le dossier santé numérique. Et là, ça crée énormément de malaise parce qu'il a été conseiller politique de l'ex-ministre des Transports, François Bonnardel, responsable du dossier de la SAQ Click au sein de son cabinet. Et selon des sources du Journal de Québec, bien, sa présence n'est pas nécessairement applaudie par tous.
Non, on va justement en parler avec Pascal Paradis aux alentours de 13h30. Mais en attendant, vous demandez, c'est qui ça, Alain Généreux? Parce qu'il y a tellement de monde qui sont passés à la commission Galland. Ben voilà un petit rappel mémoire pour vous.
C'est sûr que ça vient de mon passé, évidemment. Tu sais, j'étais entrepreneur puis tout ça, puis... J'étais un peu un Thomas, moi. T'sais, c'est sûr que j'aime ça poser des questions puis contre-vérifier de l'information. T'sais, j'aime ça comprendre. Je veux pas juste recevoir de l'information.
Vous êtes un picosseux. J'en suis un, moi aussi. Là. On s'entend bien, là? En tant que tel, là. OK? J'en suis un également. Nécessairement, pour monsieur, madame, tout le monde, OK, des payeurs de taxes, ce qui est important, c'est savoir comment ça va coûter ce projet-là.
On me le dit pas précisément.
Posez-vous la question.
On pose la question sur... Le point, là, c'est qu'on pose la question sur le 458 millions, il est ferme.
Le picosseux, là, il avait entre autres dit à la commission Galant qu'il n'avait pas vraiment été mis clairement au courant des dépassements de coûts. Et ça me permet de faire un lien avec le fait que je vous rappelle que le budget pour le projet pilote du dossier santé numérique s'est déjà passé de 265 à 403 millions de dollars avec plusieurs mois de retard sur le plan initial. Bon, pour lui, c'est toujours de la marmotte.
Hey, c'est le picosseux que ça. On est correct? Il est Thomas!
Président Donald Trump, président américain hier, qui s'est adressé aux citoyens, mais je dirais aux citoyens du monde, concernant le conflit en Iran, grossièrement, il a pas mal répété ce qu'il a toujours répété. On est bon, on est fiers. Mm-hmm. Par contre, il a ajouté qu'il devrait probablement tasser ses troupes, ses attaques dans le coin de l'Iran dans 2 à 3 semaines. Il semble tanné d'être là, ça coûte cher, politiquement aussi, ça coûte cher. C'est un peu ce qu'on peut lire entre les lignes de son discours. Il s'est vanté d'avoir remporté dans les dernières semaines des victoires rapides, décisives, écrasantes. L'Iran a répliqué à ça parce que lui, il a dit, on s'en va dans 2-3 semaines, mais on va bombarder à peu près tout ce qui pourrait vous aider dans l'avenir, dans votre société moderne. On va vous ramener à l'âge de pierre, l'âge à laquelle vous êtes habitué de vivre finalement. Et ça, ça a énormément perturbé l'Iran. Là. On s'est fâché, puis on a dit non, ben nous aussi, on va avoir des répliques absolument terribles. Et pour le détroit d'Ormuz, ben il a décidé, Donald Trump, que lui, il allait se retirer, mais que tout le monde allait gérer au niveau du passage pétrolier, ce qui fait en sorte que ça fait exploser les prix de l'essence, et encore aujourd'hui, on y goûte.
Exactement, on va en parler avec Éric Ouellet dans quelques instants, Boulevard 102. De ce pas, on va rejoindre Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques au niveau de CAA Québec. Êtes-vous fâché quand vous arrivez à station-service, puis là, vous dites « Oh my God, ça a encore monté. Ah, oh, je m'en vais dans un congé de 4 jours. Faut que j'aille voir ma famille au Saguenay. Ça va me coûter un prix de fou. » Nicolas Ryan, merci d'être présent pour nous à l'émission d'Angers, Boulevard 102.
Ça fait plaisir. Puis oui, en effet, il y a des gens qui sont fâchés. Moi, je suis à Montréal. On a vu 2 $
de
litre à Montréal ce matin. Donc, on y goûte pas mal aussi.
Ouais, mais là, c'était bon parce que le journaliste à LCN a filmé le 2,09 $. Puis, tout de suite après, 5 minutes après, il était rendu à 1,99 $. Donc, tu sais, juste pour pas franchir la fameuse ligne du 2 $ le litre, là.
Ben exactement, c'est pas mal une barrière psychologique. Puis chez Coquette, là, il y a la nouvelle application là, depuis où le site web, le régieessencequebec.ca, qui permet de suivre en direct. C'est comme un gros tour de char virtuel qu'on peut faire. On peut regarder tous les prix là, qui sont mis à jour continuellement. Et même moi, ce matin, j'ai regardé les stations autour de chez moi. Il y en avait une à 2 $. Puis quand j'ai mis à jour la page 5 minutes plus tard, elle avait aussi baissé c'est à 1,99 $. Donc on sent vraiment ne pas vouloir aller là. Cela dit, là, je regardais un peu la carte du Québec, dans le coin de Québec, la capitale nationale, on est plus autour de 1,87 $ en ce moment. Puis vous avez mentionné celui qui irait faire un petit tour au Saguenay pour aller pendant le congé de Pâques, mais on a du 1,73 $ encore de ce côté-là. Fait que peut-être que ça va être un meilleur marché d'aller faire le plein du côté du Saguenay.
Exactement. Nicolas, dis-moi donc, à quoi s'attendre justement? Bon, là, tu viens de parler de différents prix, 1,73 $ au Saguenay, 1,87 $ capitale nationale, 1,99 $ région de Montréal. On s'attend à quoi? Est-ce que ça va monter durant le week-end? Est-ce que ça va se stabiliser? Est-ce que ça va descendre? C'est quoi les prévisions?
Ouais, ben en fait nous on se lance jamais dans le jeu de prévision. La réalité c'est qu'on sait pas ce qui va se passer demain. Surtout avec un président imprévisible comme Donald Trump, est-ce qu'il va lancer une nouvelle attaque ce soir? Est-ce qu'il va retirer ses troupes le lendemain? Il y a tellement de choses qui pourraient arriver pendant le week-end. La réalité quand même, quand on regarde depuis un mois, malheureusement, les différents indicateurs pétroliers là, sont tous à la hausse. Donc c'est pour ça qu'on est parti d'un prix là, qui était autour de 1,34 $, 1,35 $, et là on est en train de monter graduellement jusqu'aux 2 $. C'est la tendance actuelle qu'on voit. Il n'y a pas d'éclaircie encore à l'horizon. Est-ce que dans 2-3 semaines, ça pourrait recommencer à baisser? Ben, c'est ça, on ne le sait pas. Il y a tellement d'incertitudes, tellement de volatilité. On préfère ne pas s'avancer. Normalement, pas moins, là, dans les derniers jours, on a quand même vu le prix grimper. Et la fameuse barrière psychologique de 2 $ est devant nous. Là. On est juste là, en ce moment.
On voit que ça va avoir des impacts sur bien des portefeuilles, des industries. Mm-hmm. C'est déjà le cas, puis c'est pas la première fois qu'on a joué dans ce scénario-là. Entre autres, les billets d'avion, ça va coûter plus cher. Les gens doivent probablement surveiller aussi tout ce qui est prix alimentaires, le transport, les livraisons à domicile. Puis pourtant, c'est dans l'ère moderne quelque chose qui est en constante évolution puis popularité, non?
Ben exactement, l'essence, c'est on est tous fâchés contre l'essence. L'essence est à 1,30, on est fâché. L'essence est à 1,90, on est fâché. Jusqu'à 2 $, on est encore plus fâché. Et oui, ça vient jouer sur les différentes industries. Là. C'est, à Québec, c'est pas différent. On a des camions sur les routes aussi. Là, nous, on paye du diesel. Il est autour de 2,50, 2,60 à certains endroits. Donc, évidemment, là, sur les factures, sur les coûts pour les entreprises, tout ça, ça peut monter très rapidement. Et bien malheureusement, souvent, les industries vont en effet refiler la facture aux consommateurs. Donc oui, en anglais, le jet fuel, le carburant d'avion aussi est à la hausse. Donc tous ces coûts-là ajoutés, ça se rajoute au coût de la vie là, qui nous a fait suer depuis plusieurs années. Ça se rajoute justement à ce qui coûte. C'est un coûtant directement dans le portefeuille des gens. C'est juste que l'essence, concrètement, on le voit. Hein, quand on fait le tour dans notre voiture, le prix de l'essence est affiché à tous les coins de rue. On le voit, c'est une commodité qui fait rager les gens parce qu'on est tellement exposé à ce prix-là. Puis on a l'impression d'être, je vous dirais, de pas avoir de pouvoir là-dessus. Puis c'est vrai que c'est au Québec qu'on choisit le prix de l'essence. Donc malheureusement, on est un peu victime d'une situation internationale qui fait en sorte que le prix a grimpé aussi rapidement. Puis on semble ne pas trouver de solution pour contrer la hausse de ces coûts-là.
Non, c'est un bon point que t'amènes. On l'a tellement dans le visage, le prix de l'essence, comparativement, par exemple, au prix d'un casseau de fraises, qu'on le remarque immédiatement dès qu'il y a une hausse. Nicolas, les plus cyniques comme moi vont dire que ces hausses-là arrivent toujours avant les longs congés, comme celui du long congé de Pâques. Vrai ou faux?
C'est un mythe qui est tenace. On l'entend beaucoup. C'est un mythe qu'on a quand même déconstruit avec les années. Donc, on a fait un bilan de l'essence 2025. L'an dernier, on a regardé justement toutes les situations où les prix de l'essence avaient monté avant le week-end. Puis je dirais, il y a juste une fois dans toute l'année au complet où c'est arrivé, où on aurait pu poser des questions là, sur les marges bénéficiaires des stations-service. Donc, c'était une hausse qu'on considérait injustifiée. La réalité, comme je l'ai dit, c'est pas au Québec qu'on choisit le prix de l'essence. Donc, si les indicateurs pétroliers, justement, sont à la hausse, si par exemple le prix du Brent ou le prix du WTI est à la hausse un mercredi ou un jeudi, ben, il y a de fortes chances à ce moment-là qu'on voit le prix de l'essence grimper rendu au vendredi. Même chose avec les vacances de la construction aussi. Là, il y a 2 ans, là, ça avait été particulièrement. Je pense que le prix avait baissé de 10 sous juste avant les vacances de la construction.
Ouais.
Puis on recevait des appels quand même. Ça, comment ça, le prix va être à la hausse? On l'a regardé tout le prix qui a baissé de 10 sous. Là. Est-ce qu'on peut le saluer pour une fois? Donc, c'est un mythe qui est tenace quand même. Les gens y pensent beaucoup. Mais là, la réalité, il y a une crise en Iran présentement. Là, c'est pas les stations-service qui ont décidé de se mettre tout ensemble aujourd'hui pour dire on va monter le prix. La réalité, c'est le prix qu'on paye globalement.
En terminant, peut-être justement aborder cette crise en Iran, je ne sais pas si vous allez être à l'aise de répondre à ça, mais on a vu Donald Trump hier dire « Hey, arrangez-vous l'OTAN avec vos pétroliers puis votre passage au détroit d'Ormuz. Nous autres, on quitte dans 2-3 semaines puis on ne vous aide pas nécessairement là-dedans. Ce sera à chacun d'être indépendant dans la gestion de crise qu'il a veut pas amplifier et créer. Est-ce qu'on pourrait, selon vous, être dans une genre de sphère qui va encore être difficile pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vu que ça ne sera pas nécessairement débouché?
Ben, c'est sûr, c'est inquiétant. Tout ce qui est crise internationale, on ne sent pas qu'on a un contrôle ici au Québec. La réalité, c'est qu'avant cette situation-là, il y a un mois, il y en avait pas de problématique. Là. Nous, notre plan de l'essence l'an dernier disait que le prix avait été en baisse en 2025 par rapport à 2024. En début d'année au Québec, là, on avait un prix qui flirtait parfois autour des 1,30, 1,35. Je pense que ça faisait du bien un peu au portefeuille de tout le monde. Et là, pouf, tout d'un coup, lance la situation en Iran. Même aux États-Unis, il y a énormément de pression. Là, je pense que c'est 4 $ le gallon à certains endroits. Les gens sont pas plus contents là-bas. Il y a personne qui est content en ce moment de cette situation-là. Donc, il y aura une pression pour régler le tout et faire en sorte, genre, de faire rebaisser le prix aux États-Unis. Il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent là-bas aussi. Je suis pas un spécialiste de la politique américaine, donc je peux pas m'avancer plus loin que ça, mais la réalité, je pense que si on regarde ça, il faut qu'il trouve une solution au problème qu'il a lui-même créé. Et s'il trouve cette solution-là, ben, probablement qu'on va tous en bénéficier, que les prix pourraient rebaisser. Mais malheureusement, souvent, les prix montent très rapidement. Et quand il y a le temps de baisser, c'est toujours un petit peu plus lent avant de voir la répercussion à la baisse. Mais on va suivre ça avec attention là, chez CA Québec.
Nicolas Ryan, directeur aux affaires publiques pour CA Québec, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis on va partir avec le fait que c'est pas vrai que c'est le long congé qui augmente le prix de l'essence.
Merci beaucoup.
Salut Nicolas, merci. Nicolas Ryan, directeur aux affaires publiques pour le CAA Québec.
À Boulevard 102.1, avec Jeff Fortin et Pascal Cévé. Jusqu'à 14h, on en jase.
Jeff, là-dedans, par contre, il faut savoir, il y en a qui essaient de débloquer les choses. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Hannan,
oui,
est dans une discussion là-dessus sur sécuriser le détroit d'Ormuz à la fin des hostilités. Puis également, ben, c'est Pierre Poilievre qui jasait aujourd'hui de nous donner un genre de petit congé de taxe fédérale au prix de l'essence. Ça concerne tout le monde.
Exactement, ça concerne tout le monde et ça concerne surtout ce fameux détroit d'Ormuz tout près de l'Iran qui bloque 20 % du transport du pétrole mondial. Et pour en parler avec nous, pour savoir si ça va être débloqué dans pas long, Pascal CV, on a Éric Ouellet, professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire royal du Canada. Éric, merci pour ta disponibilité aujourd'hui.
Oui, c'est toujours un plaisir de vous parler.
Good. Éric, annonce à la Nation hier, Donald Trump a dit « ça va durer encore 2 semaines, après ça on plie bagage ». Vas-tu vraiment pouvoir plier bagage après seulement 2 semaines?
Ben, M. Trump et les forces armées américaines pourraient arrêter leurs opérations militaires après 2 semaines, je pense, mais cependant, est-ce qu'ils auront atteint leurs objectifs? Ça, c'est moins clair, d'une part. D'autre part, c'est possible qu'Israël continue d'attaquer alors que les Américains, eux, ont arrêté. Il va y avoir certainement énormément de pression sur Israël pour arrêter, mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement fonctionner.
On se questionne sur les avancées de Donald Trump. Il dit qu'il va avoir réussi ses objectifs, mais ses objectifs, je veux dire, sont jamais nommés, sont inventés pour beaucoup de points de presse, pour beaucoup d'apparences. Et il a dit hier qu'il allait être là pour tous les pays du Golfe, qu'il allait continuer de les aider et justement d'agir avec eux. Comment il va pouvoir faire ça s'il se retire? Comment il va pouvoir faire ça s'il veut faire baisser la chaleur?
Ben, en fait, les options américaines sont minces en ce moment. Le régime est toujours déterminé à résister. Cependant, on pourrait imaginer un scénario où les Américains et les Israéliens vont commencer à frapper les industries qui sont de la propriété des gardiens de la Révolution et qui, bon, là, au moins les dirigeants s'en mettent plein les poches avec tout ça. Et mettre de la pression sur eux pour arriver à une sorte de cessez-le-feu. Et sinon, on continue à détruire leur propriété, entre guillemets. Et là, ça pourrait mettre énormément de pression. Il y a aussi la possibilité d'une invasion de l'île de Karg, où à peu près 90 % du pétrole iranien transite. Et comme monnaie d'échange. Donc, on vous redonne Karg, mais vous laissez le détroit ouvert. Donc, on verra, mais il y a quelques options possibles.
Qui dirige l'Iran présentement, Éric? C'est flou. Donald Trump dit qu'il parle avec des gens. Ces gens-là disent qu'ils ne parlent pas à Donald Trump. C'est qui dirige l'Iran?
Ben, en temps normal, c'est une question que tout le monde se pose. Donc, imaginez en temps de conflit. C'est en fait un réseau de gens qui, des gardiens de la Révolution, certains membres du clergé, quelques politiciens élus, et qui, c'est plus, il faut plus voir ça comme une espèce de nébuleuse où des gens discutent, socialisent et arrivent à une solution ou une décision jusqu'au prochain problème. Et donc, le processus se répète. Donc, c'est pas un processus décisionnel clair comme on a l'habitude de voir dans les pays occidentaux. C'est plus basé sur des discussions fluides qui évoluent au jour le jour.
Quand on parle de libérer le détroit d'Ormuz, et Pascal nous le disait justement tout juste avant l'entretien avec toi, Éric, qu'il y avait des pourparlers, et notamment le Canada faisait partie de ces pourparlers-là. Mais jusqu'à quel point ces pourparlers-là peuvent arriver à un débouché?
Ben, je pense que des discussions qui ont lieu en ce moment le Canada et d'autres pays de l'Occident, c'est pour l'après-conflit ou à tout le moins l'après-cessez-le-feu, où on pourrait essayer de créer une zone sous protection internationale, une espèce de mission de maintien de la paix, si vous voulez, qui serait probablement pas sous l'égide des Nations Unies, mais c'est ce genre de discussions qui ont lieu en ce moment. C'est pas des discussions sur s'impliquer militairement dans le conflit pour arrêter les Iraniens. Je pense que ça, tout le monde a été bien clair là-dessus. C'est pas l'intention du Canada ni des alliés européens.
Comment ça va parler pour la suite dans les relations avec l'OTAN pour les États-Unis? Parce que là, Donald Trump se retire puis il dit « arrangez-vous avec vos troubles que j'ai créés finalement avec le détroit d'Ormuz ». Puis l'OTAN et les États-Unis, c'était pas nécessairement très appréciable comme relation dans les dernières semaines non plus, là.
Ouais, mais je dois admettre que c'est du Monsieur Trump classique. Là. Si on regarde les réactions des capitales occidentales, il y a eu très peu de réactions. Donc, je pense que pour l'instant, en tout cas, cette menace n'est pas prise très au sérieux. C'est plus une technique maintenant bien connue de M. Trump de mettre de la pression sur les alliés en faisant des menaces, mais ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement déterminé de mettre ces menaces à exécution. Donc, pour l'instant, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Là, c'était plus du M. Trump classique.
Éric, au début du conflit, tu nous as mis la puce à l'oreille sur la possibilité d'attentat terroriste. On est à quel niveau maintenant? Est-ce qu'on est au niveau modéré ou élevé en Occident?
Ah ben ça monte. Il y a eu des arrestations en France. Heureusement, ils ont arrêté la tentative d'attentat d'avance, mais en Grande-Bretagne aussi, il y a eu des actions et il n'y a aucun doute qu'au Canada, les services de renseignement sont en état d'alerte pour surveiller là, les agents potentiels. Cependant, c'est probablement pas des agents iraniens eux-mêmes. Souvent, ils embauchent des criminels pour faire le sale travail à leur place. Et je pense qu'il faut penser que le niveau d'alerte augmente un peu partout en Occident.
Éric Ouellet est professeur titulaire au département d'études de la défense au Collège des forces armées canadiennes et au Collège militaire du Royal Canada. Merci beaucoup, Éric, pour ton temps passé. Merci de nous informer adéquatement sur ce qui se passe justement en Iran et les répercussions qu'il peut avoir ici en sol de Canadiens et Américains.
Il n'y a pas de quoi et à la prochaine.
Merci, à la prochaine. Bon long congé de Pâques. Éric Ouellet, notre spécialiste en conflit militaire. Alors, ce conflit-là perdure. Ce conflit-là fait augmenter le prix de l'essence, comme on le voit avec Nicolas Ryan. Et on ne voit pas vraiment de sortie de crise, même si Donald Trump nous dit « Dans deux semaines, c'est fini ».
Ben pour lui, peut-être que c'est fini dans sa tête. C'est loin d'être fini pour son pays. Puis ça, je pense que ça va lui coûter encore très cher politiquement.
Exactement. On fait une courte pause à Boulevard 101 et dans un instant, on parle avec le docteur Neb Kovacina. Il fait partie d'un groupe de 50 professionnels en santé, que ce soit des médecins de famille ou des pharmaciens, qui ont émis énormément de recommandations pour améliorer le système informatique en santé, faire qu'on soit plus productif et que ça soit mieux pour les patients. Alors, les Alain généreux de ce monde, les perspicaces. Du dossier santé numérique, soyez à l'écoute de Boulevard 102.1. On va avoir des pistes de solutions tangibles, crédibles, qui viennent du terrain. C'est le fun, les gens sur le terrain, au lieu de quelqu'un dans un gros organigramme du haut, disent « ça serait le fun qu'on fasse ça. »
Mais avant que le terrain monte, là, ouais, avec ça. Ses idées...
Ben, c'est pour ça que le terrain a besoin des médias.
Exact.
Et c'est exactement pour ça qu'on va parler avec le docteur Neb Kovacina dans un instant à Boulevard 102.1. 13h08, minutes émission d'En Jase, ton émission d'actualité sur l'heure du midi à Boulevard 101 avec Jeff Fortin, Pascal, le CV, le Patro Lapin, tu connais, c'est la marque de commerce du Patro Rocamadour, une campagne qui existe depuis 1978 et cette année encore, et là, fais vite, c'est le dernier week-end pour t'en procurer, c'est le week-end de Pâques, procure-toi le Patro Lapin, cet excellent chocolat, au patrolapin.com. pour passer votre commande et offrir du bonheur à qui vous voulez. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à l'ensemble des patros, donc ici à Québec, Patro Laval, Patro Rocamadour et Patro Charlebourg, d'offrir plus de sport, de loisirs et d'entraide dans les centres communautaires de votre quartier. Il y a des prix d'une valeur totale de 5 000 $ à gagner. Alors, je le répète, patrolapin.com va acheter ton lapin de Pâques en chocolat pour encourager ces merveilleux centres communautaires qui sont les patros. Pascal, avant de parler au docteur Kovacina concernant la santé numérique et des améliorations qu'on pourrait apporter, circulation.
Oui, Henri IV Sud, début du pont Pierre-Laporte, la voie de gauche, la voie centrale sont partiellement entravées. Il y a des débris également. Bon, c'est difficile sur Laurentienne Sud, hauteur boulevard Le Bourgneuf, là, parce que la voie de droite a été bloquée longtemps. Il y a eu un accident. Le remorquage a été fait, mais... comme d'habitude, ça ralentit. Puis sur la hauteur, première avenue, là, Félix Leclerc, autant direction est que direction ouest. Ça a été difficile. Il y a eu accident direction est et là, il y avait des débris direction ouest. Le temps de tasser tout ça, ben veut, veut pas. T'as des wéreux, comme on dit, services d'urgence et tout ça. Puis ça, ça a beaucoup ralenti le secteur, même si les deux dernières choses que je vous ai dites par rapport au réseau routier se sont résorbées dans les dernières minutes. C'est, on sent le jeudi de Pâques, là.
Exactement.
On le sent. Bien sûr, je dois saluer le départ officiel de François Legault à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Alors, beaucoup de ses collègues se sont prononcés. On fait une grande revue sur l'ère Legault. On va laisser place au prochain premier ministre ou à la prochaine première ministre, tu sais bien. C'est entre Mme Christine Fréchette et Bernard Drinville que ça va se jouer. Sinon, du côté des États-Unis, nouvelle de dernière minute, Donald Trump aurait montré la porte à la procureure générale Pam Bundy. C'est ce que rapportent deux médias américains, CNN et Fox News. Les médias citent des sources, là, puis ils font état de frustration constante entre ces deux-là à l'endroit, bon, c'était la numéro un du département de la justice, surtout dans l'affaire du délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Et là, c'est le New York Times qui rapporte tout ça. Donc, c'est un melting pot de plusieurs médias américains qui me donnent l'information comme quoi, entre les deux, ça bat de l'aile par rapport au dossier Epstein. Puis on aura plus d'informations au courant des prochaines heures, c'est sûr. Mais pour lui, la procureure générale, Pam Bundy, c'est une personne qui n'est plus aussi formidable qu'elle le disait. Là, hein? On s'entend, là?
Oui, son passage a été très nébuleux devant là, la commission, là, justement, parlementaire concernant le dossier de Jeffrey Epstein.
Puis je vous rappelle qu'il y a un mois, il a écarté la secrétaire de la Sécurité intérieure, Christy Noem, aussi.
Ça va super bien.
Ça va super bien. À Québec, superbe annonce, 151 logements sociaux à l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, c'est financé pour la première fois au Québec par le fameux projet Maison Canada, l'enveloppe budgétaire qui est donnée pour ce genre de projet-là. Et le nôtre va coûter 55,7 millions de dollars. C'est entièrement consacré au logement social. On peut crier victoire là-dessus. On sait qu'on en a besoin. Ce sera, comme je vous disais, du côté de l'église Saint-Vincent-de-Paul. On va démolir ça. Ça fait plus de 15 ans là, qu'on essaie de trouver une revitalisation des choses. Je vous dirais que les travaux vont débuter printemps 2027 parce que là, cet été, cet automne, ça va être plus pour les relevés archéologiques et la décontamination du site.
Excellente nouvelle pour la ville de Québec. Le dossier santé numérique fait énormément parler. Les médecins ont de la difficulté avec leur système informatique. Il y a un groupe de 50 professionnels spécialistes en santé, que ce soit des médecins de famille ou des pharmaciens, qui ont travaillé à trouver des pistes de solutions. Et un membre de ce groupe-là, le docteur Neb Kovacina, est avec nous au bout du fil. Monsieur Kovacina, merci pour votre temps pour l'émission d'Angers à Boulevard 102.1.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Monsieur Kovacina, si je vous demandais de me résumer rapidement, c'est quoi la principale ou les deux principales problématiques que vous vivez à l'heure actuelle en tant que médecin de famille avec votre système informatique?
Bien, en fait, ce qu'on voit en première ligne ou en médecine de famille, en fait, c'est que nous, nous avons déjà vécu une transformation numérique un peu dans les derniers 15 ans, donc avec l'introduction des dossiers électroniques dans nos cliniques, avec plusieurs plateformes avec lesquelles on navigue pour les résultats, l'imagerie, communication, etc. Et donc, nous avons voulu documenter un peu ces expériences-là, parce qu'on sait qu'on a quand même un grand défi dans le système de la santé pour continuer à numériser, puis à expandre et à rendre notre système plus efficace de ce côté-là. Donc, nous avons, si je peux dire, identifié plusieurs problèmes. Ce qu'on a regardé, nous, c'est en fait l'effet de la technologie sur le fardeau administratif. Donc, on nous dit souvent que le numérique, la technologie, ça va faciliter notre travail clinique. Mais en fait, on voit que des fois, c'est le contraire. Donc, c'est ça le paradoxe un peu de la technologie. Hein? Des fois, elle rajoute du fardeau. Donc, le numérique n'est pas tout le temps là pour enlever les tâches non cliniques, non voulues là, ou jugées inutiles là, un peu par les cliniciens. Et des fois aussi, ça peut causer le risque pour le patient parce que si les outils sont pas bien conçus, pas bien implantés, pas bien utilisés, ben on peut induire les utilisateurs, les cliniciens en erreur, puis on peut des fois faire des omissions puis des erreurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué que de façon générale, les outils numériques ne sont pas conçus avec ce regard-là. Ce qu'on a en ce moment au Québec, puis au Canada, si je peux dire aussi, c'est que les outils numériques sont conçus seulement en suivant les standards de la sécurité des données du patient, ce qui est très important. Donc, oui, on certifie les produits selon donc le niveau de sécurisation des données, mais ce qu'on voit à l'international, puis dans les études, puis dans la littérature, c'est que c'est pas rien que ça. Donc, il faut vraiment penser aussi aux standards de qualité. Est-ce que on a des produits qui sont bien utilisés? Est-ce que en fait, ça limite les erreurs? Est-ce que c'est ergonomique? Est-ce que c'est facile? Et c'est ça, en fait, qui démontre un peu un gain d'efficacité, puis un gain au niveau de la capacité réelle des équipes à donner des soins. Donc nous, on s'est vraiment basé là-dessus. On a fait des enquêtes terrain pour confirmer.
Oui, c'est ça, M. Kovacina. J'allais justement vous demander quelles sont les principales pistes de solutions que vous proposez. Parce que moi, j'aime toujours ça quand c'est le terrain qui propose aux grands gestionnaires. C'est vous qui le vivez, puis c'est vous qui avez ce fardeau administratif-là présentement.
Exactement. Donc nous, en fait, dans notre rapport, on a vraiment donné des pistes concrètes, un peu des pistes stratégiques qu'on appelle nos piliers d'action pour différents acteurs dans le système pour pouvoir vraiment concrétiser certaines bonnes pratiques là dans ce domaine-là. Donc on a voulu vraiment insister sur le fait de garder les données de santé comme un bien public, donc accessible, bien géré, bien gouverné, donc de façon éthique, et que justement l'information circule, donc qu'elle circule d'un système à l'autre, et aussi donner accès complet aux patients, donc que les patients puissent avoir l'accès complet à leur information personnelle. Ensuite, on a voulu vraiment pousser sur les standards de qualité, comme j'ai dit, donc qui ne sont pas encore très bien définis, on les utilise pas. Donc, les standards de qualité qui sont basés sur l'ergonomie, sur la diminution des risques d'erreur, donc sur la valeur qu'on ajoute dans un travail, la pertinence clinique aussi. Donc, ça nous prend une certification provinciale. On veut aussi comprendre, et quand on construit le numérique, que qu'est-ce qui doit être vraiment continuer à être fait par un humain et qu'est-ce qui doit être délégué à la machine ou au numérique, c'est très important. Et puis aussi baser l'approvisionnement public qui est basé sur la qualité aussi des produits puis sur ces standards-là. Et finalement, les dernières recommandations qu'on avait, c'est par rapport aux leaders cliniques, donc développer une littératie numérique par les cliniciens, mais aussi au niveau des usagers, le public et les patients, et aussi développer une expertise qui va guider le développement des technologies. Donc, que ce soit en IA ou ailleurs, mais que ce soit les cliniciens et les patients qui sont experts de leur vécu puis des soins, qui, eux, guident le développement des technologies.
Monsieur Kovacina, en terminant et rapidement, sur une échelle de 1 à 10, vous avez quel niveau de confiance que les dirigeants vont enfin vous écouter, les gens sur le terrain, et faire les modifications que vous demandez?
Bien, si je dois mettre ça sur une échelle, je dirais on est plus que 5. Là, on est entre peut-être 6 et 8.
Ah, parce qu'en fait,
on a un bon moment opportun en ce moment avec la nouvelle politique qui vient de sortir sur la première ligne. On voit qu'il y a certaines volontés pour donner des bons outils aux équipes, donc d'augmenter la capacité des équipes de travailler sur le terrain, et ça passe par les outils de technologie qui sont offerts aux équipes. Donc, il faut que ces outils-là soient conçus et testés par le terrain pour qu'elles donnent des bons résultats.
Neb Kovacina, docteur, médecin de famille, membre de l'équipe ayant contribué au rapport sur le fardeau technologique pour les médecins. Merci beaucoup pour le temps accordé à l'émission On en jase ce midi.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Neb Kovacina, qui demeure positif d'avoir une écoute. C'est tout.
Sais-tu quoi? Tant mieux.
Tant mieux.
Que c'est lui qui va représenter son projet. Faut pas
c'est
que...
ça.
Mais
faut,
je trouve ça plate.
Faut confiance.
Parce que le gouvernement demande toujours des solutions, des nouveautés. Là, on a des experts qui se concentrent là-dessus. C'est même pas au gouvernement, puis on utilise rarement leurs avancées.
On va se mettre en note de reparler avec M. Kovacina, un de ces quatre, pour justement voir si ces pistes de solutions vont être acceptées.
À Boulevard 102.
Boulevard 102. On vous informe justement des gens qui sont sur le terrain. On aime tout ça, Pascal CV, nous parler aux gens qui sont sur le terrain. C'est quoi qu'ils ont besoin? Puis aller mettre la pression sur le gouvernement par la suite. Donc, bel entretien avec Neb Kovacina, médecin de famille qui nous résume les besoins en matière d'informatique. On aime ça aussi, aller parler à des gens qui ont comment je pourrais bien dire, qu'au niveau...
une capacité de réflexion.
Oui, c'est exactement le bon terme.
Parce que là, je sais qui tu vas présenter, fait que
c'est ça.
Je vais te mettre les mots dans
la
bouche.
Qui ont une capacité de réflexion et d'analyse qui nous amène ailleurs. Et ce chroniqueur-là qu'on a les mardis et jeudis à l'émission On en jase, Rémi Villemeur, animateur au 99.5 Montréal, là, il me fait toujours réfléchir différemment et j'adore parler avec lui. Rémi Villemeur, comment vas-tu?
Ah, vous êtes bien aimables. Ça va bien, vous deux?
Ça va super bien. Rémi, premièrement, félicitations pour ton entrevue avec Mohamed Bekali. C'était très intéressant. On a fait jouer des extraits à notre émission Marceau le matin, le lendemain matin.
C'était une drôle d'aventure, ça, parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires de gens qui étaient contents que l'entrevue ait lieu. J'ai eu des commentaires de gens qui avaient trouvé qu'elle s'était bien déroulée du point de vue de l'animation. J'ai reçu par contre aussi beaucoup de commentaires, pas de messages personnels, mais beaucoup de commentaires de gens qui me reprochaient de l'avoir invité, surtout des gens qui me reprochaient de l'inviter, parce que j'ai annoncé que j'allais le recevoir, et par la suite, les commentaires de gens qui me reprochaient de l'avoir invité, ils étaient moins nombreux. J'ai même pas eu l'occasion de le préciser nulle part, là. Moi, j'ai reçu cette personne-là parce que dans les jours qui avaient précédé, j'avais rencontré des anciens policiers qui me disaient à peu près tous que ce n'était pas un cas exceptionnel. Mm-hmm. Donc, si ça avait été un cas exceptionnel, je n'aurais pas reçu cette personne-là parce qu'effectivement, il n'y aurait pas eu lieu de s'intéresser à un fait divers. Mais si c'était, selon les policiers, à la retraite, représentatif d'un phénomène, ben alors ça devient un enjeu de société. Si ça devient un enjeu de société, ben vous pouvez recevoir des anciens policiers, vous ne pouvez pas recevoir des policiers actifs, ils n'ont pas le droit de sortir, et vous pouvez recevoir des gens qui sont pris parce qu'ils se filment eux-mêmes, à s'exprimer de cette façon-là. Pour moi, c'est un sujet de société. Donc, j'ai reçu cette personne-là pour comprendre ce phénomène-là. J'ai aucun regret.
Je suis très d'accord avec toi. Parlant de commentaires, tout à l'heure, moi, Antonine et Pascal, on a fait justement le bilan de François Legault. Et j'ai dit que je vais toujours avoir un respect immense pour des gens qui ont donné 28 ans de leur vie au service public. Il y a beaucoup de commentaires qu'on a reçus sur notre texto. Ils continuent de nous envoyer 418-971-101 qui étaient « Ouais non, Jeff, comment ça, tu y rends hommage? Le Québec a reculé. Ben, François Legault, c'est un ci, c'est un ça, tatatitatata. » Mais Rémi, on va s'en ennuyer de François Legault avec Christine Fréchette qui va s'en venir à la tête de la CAQ et son discours très monotone.
Ben Christine Fréchette, peut-être un Charles Milliard aussi, ce sont pas vraiment des figures, des personnalités fortes. Tu sais, Christine Fréchette, moi, je commence à trouver que c'est fatigant un peu. Elle a refusé toutes mes demandes d'entrevue et je le prenais personnel jusqu'à ce que j'ouvre Le Devoir de ce matin où il y a un article sur Bernard Drainville. Bernard Drainville a accepté de répondre à toutes sortes de questions et au début de l'article, les journalistes du Devoir disent qu'elle a refusé, Christine Fréchette, de se prêter à l'exercice.
Hey, Bernard Drainville est venu s'asseoir avec nous un matin et il a dit aux auditeurs « Pitchez-moi vos questions ».
Ligne ouverte, là, les téléphones sonnaient.
Mais tu sais, Bernard Drainville, dans cette façon-là de faire de la politique, ça ressemble beaucoup à François Legault. C'est un peu plus intense dans la mesure où François Legault n'était pas non plus... Non, mais François Legault n'était pas non plus là à dire « Posez-moi vos questions », mais c'était quelqu'un, et on parle de lui au passé parce que dans un mois, dans quelques jours, il sera plus premier ministre, mais c'était quelqu'un de très humain, de quelqu'un de... Moi, je pense que c'était l'un des derniers chaleureux en politique. Quand vous regardez l'offre en ce moment, là, autant au fédéral, avec un Carney... Qui a l'air de ne pas aimer ça être premier ministre puis de ne pas aimer ça faire la tournée des régions, un Poilievre qui est difficile à faire sourire. On a Christine Fréchette qui donne peu d'entrevues, qui lors du deuxième débat, lorsqu'elle a été taclée, je ne sais pas si vous avez vu la réaction physique qu'elle a eue, là,
ben oui.
Quand elle a dit « tu dépasses les bornes, Bernard Drainville », comme si elle découvrait ce que c'était qu'un débat et ce que c'était que de la politique parfois quand ça devient un peu sale, j'en conviens. François Legault, lui, il se trompait. Et puis il s'excusait après. Comme la grande majorité des Québécois, soit dit en passant, hein, on se trompe, puis ensuite on s'excuse. Ouais. François Legault, il construisait des avions en plein vol. Des fois, ça lui a été reproché. C'est évident. Durant la pandémie, par exemple, il y a des gens qui l'ont comme une crotte sur le cœur, je les comprends. Mais en même temps, on fait tout ça un peu, construire des avions en plein vol. Il y avait quelque chose de très humain, de très réaliste avec lui. Finalement, c'était quelqu'un qui calculait moins que les autres. Quelqu'un de très, très, très impulsif. Et, et je pense que ça l'a mené à sa perte. Mais pendant un long moment, on se sentait très proche de lui. On avait l'impression que c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui nous ressemblait et qui occupait ce poste-là. Donc moi, je le dis tout de suite, En ce moment, c'est sûr que sa cote de popularité est basse. C'est normal que vous receviez ce genre de message-là. Et moi, je peux comprendre les gens qui vous les envoient.
Ah, bon, si.
Mais donnons-nous, écoutez, j'aurais envie de dire 5 ans, donnons-nous 2 ans et on va s'en ennuyer. 2 ans.
Mais c'est parce qu'il y a... Il y a une partie de François Legault qui est tellement insouciante, puis je le dis avec beaucoup de respect, mais il arrive, il parle à des enfants, il ne se rend pas compte qu'il peut créer des malaises. C'est un gars qui va faire de drôles de jokes, des fois un peu sur la limite. Il va donner un bec à sa sœur devant tout le monde. Tu sais, des choses comme ça qui rendaient effectivement un petit peu plus humain la politique, qui nous permettait de se rapprocher de l'homme pour le meilleur et pour le pire. Ce qui est du côté de Bernard Drainville, je pense, a amené dans la conversation aussi, c'est que ça a été longtemps un journaliste ou un commentateur de l'actualité. C'est plus facile pour lui d'être dans l'improvisation, d'être lancé dans un bain de foule, puis de jouer avec cette foule-là, d'être un peu moins calculé, mais en même temps, c'est très calculé. Puis d'un autre sens, Christine Fréchette, je pense que quand elle est venue un peu plus sur les nerfs dans un débat qu'elle avait avec Bernard Drainville, c'est que il doit avoir une notion de différence entre un débat entre partis politiques puis un débat entre candidats à la chefferie du même parti.
Oui, oui. Puis tu sais, Bernard Drainville, moi, je me suis longtemps demandé, quelques semaines en tout cas, pourquoi ça décollait pas. Il y a des gens qui disaient, ben justement parce que ce style-là, on n'en est plus capable et il l'incarne lui-même. Puis je me suis dit, c'est quand même dommage parce que Bernard Drainville, des fois, il recule puis des fois, il avance, mais quelqu'un qui tient son bout tout le temps, d'accord, oui, ça peut être à saluer. On se dit quel individu qui a des convictions. Mais ça peut aussi se dire, quand la personne va se tromper, va-t-elle l'admettre qu'elle s'est trompée? Ouais. Ou elle va tenir un bout juste par orgueil, juste par ego? Et ça, c'est ce que j'aurais voulu découvrir avec une Christine Fréchette en entrevue, en la voyant un peu plus faire la tournée. Et partout où elle est passée, elle était calculatrice. Et ça, malheureusement, là, ça ne dure pas bien longtemps dans l'amour avec les Québécois. Ouais. Ça risque de durer quelques jours. Le temps, finalement, qu'on se rende jusqu'aux prochaines élections.
J'aime tellement ce que t'amènes parce que moi, mes politiciens préférés, c'est ceux qui se battent. C'est ceux que je sens qui ont une énergie. C'est ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Puis honnêtement, même si à l'heure actuelle, je ne suis pas pour la souveraineté du Québec, Paul Saint-Pierre, Plamondon m'inspire là-dedans parce qu'il se bat, il va, il croit en sa cause puis il avance avec sa cause. Christine Fréchette, ça ne m'inspire pas à cause de ça. C'est l'espèce de cadran à l'hôpital où t'écoutes le cœur, mais il n'y a pas vraiment de pulsion. Là.
Ben oui, mais est-ce que vous seriez capable, vous deux, de me résumer en une phrase pourquoi Christine Fréchette fait de la politique?
Moi, je pense que c'est parce que c'est une femme qui est droite et qui veut mener à terme des grands projets de société.
OK, mais tu as remarqué que tu ne m'as pas nommé aucun projet, par contre, précisément.
Non.
Donc, je te prends pas.
Non, pas du tout, mais c'est parce que c'est dur de... On ne sait pas ce qu'elle défend. En ce moment, c'est très difficile.
Mais on parlait de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis on sait qu'il veut faire l'indépendance du Québec. Exactement. On sait, par exemple, que Bernard Drainville, que ce soit par opportunisme ou pas, on sait qu'il veut s'attaquer à la bureaucratie. On sait qu'il essaie d'introduire des notions de droit économique dans son programme.
L'essence, l'immigration.
Ben oui, mais Christine Fréchette, on dit qu'elle est droite, puis elle veut s'attaquer à des grands projets où on dit « Ah, elle veut faire de la politique autrement. » On n'est pas capable de mettre le doigt là-dessus.
Mais je pense qu'elle fait l'erreur de vouloir plaire à tout le monde en ce moment. Puis quand tu veux plaire à tout le monde, tu plais à personne parce que tu n'es même pas orienté personnellement.
Ben oui. Puis à un moment donné, il faut que ça soit plus clair. Il faut que ça soit plus... Et moi, je vous dis une chose. Je les connais, les Québécois. Là, en ce moment, ils se disent « Elle est nouvelle. C'est une femme. Elle a réussi. » Quand on a dit d'elle qu'elle était studieuse, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant. Il va falloir qu'on sente qu'il y a quelque chose en arrière d'elle. Et ça va. Et c'est comme ça que les Québécois tombent en amour avec des politiciens.
Mm-hmm. Bien, je boucle la boucle justement de notre discussion et de ta chronique, Rémi, avec ceci. François Legault, oui, à l'heure actuelle, on est déçu de son bilan parce qu'il avait promis beaucoup de choses qu'il n'a pas fait. Mais s'il y a bien une chose qu'on a sentie avec ce politicien-là, c'est ses émotions. C'est son gut feeling en dedans. Et ça, ça l'a parlé énormément, surtout durant la pandémie.
Oui, tout à fait.
Rémi Villemur, je te laisse partir là-dessus. On se refait une jasette sur le sujet que tu venais de nous parler, les souffrances des adolescents. Ça va me parler beaucoup. J'ai 2 ados à la maison. On se fait ça la semaine prochaine.
Bye-bye tout le monde.
Ciao. Salut Rémi, merci beaucoup. Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal. Lundi et jeudi de 18h à 19h sur les ondes du 99.5 Montréal et le samedi de 8h à 10h avec Jacinthe-Ève Harel. Dans un instant, on parle avec Pascal Paradis, député de Jean Talon. Monsieur Paradis en a long à dire sur Rappelle-moi donc, là, c'est qui gère santé numérique, Pascal Sévin? C'est notre perspicace, là.
Oui.
Notre homme, là.
Oui.
Notre Alain Généreux.
Notre Alain Généreux.
Celui
notre qui... picosseux.
Notre picosseux, celui qui n'a pas vu passer les dépassements de coûts au niveau de Satellite. On en parle avec Pascal Paradis dans un instant à l'émission Nangeur sur Boulevard 102.1.
Cromignon.com.
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.
Émission On en jase sur Boulevard 102.1. On va terminer avec un duo de politiciens. On commence par Pascal Paradis pour nous parler du dossier santé numérique. Et par la suite, Christine Labrie va venir nous parler de son projet de loi pour la garde des enfants, les retirer à des conjoints qui sont violents. Quand même une très belle réflexion de Mme Labrie. J'ai hâte de jaser avec elle. À la météo, alternant soleil et nuages, c'est 4 degrés à l'heure actuelle. 5 degrés de la pluie ou de la pluie verglaçante demain. 4 degrés alternance de soleil et nuages samedi pour le long week-end. 9 degrés de la pluie pour dimanche. Et 2 degrés possibilité d'averse de neige pour lundi. Il est député du Parti québécois dans la circonscription de Jean Talon. Il est avec nous présentement au bout du fil, Pascal Paradis. Monsieur Paradis, merci pour votre disponibilité pour l'émission d'En Jase.
Toujours un plaisir. Salutations à vous en studio et à tout le monde qui nous écoute.
Est-ce que vous allez encore accepter nos invitations? Admettons là, qu'aux prochaines élections, parce que vous avez annoncé que vous allez vous représenter, ça fonctionne, puis on vous redonne un mandat. Là, ça sera très, 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 très officiel, très au sein d'un parti, un parti qui est en montée. Est-ce que vous allez encore nous parler, M. Paradis?
Moi, j'aime ça qu'on puisse donner l'occasion aux gens de la capitale nationale de voir ce que les députés pensent, ce qu'ils ont à dire sur les sujets d'actualité.
C'est pas encore un oui, ça.
C'est un exercice de transparence, donc la réponse, c'est oui.
La réponse, c'est oui. Excellent. Monsieur Paradis, j'aime donner la parole à nos auditeurs et j'ai Éric qui nous écrit « Coudonc, Alain Généreux, oui, c'est un picosseux, mais seulement pour se scinder des jobs. » Ça qu'il a fait, es-tu allé se scinder une job à Santé numérique?
Bon, je fais toujours attention parce qu'on parle de personnes, puis il faut pas trop personnaliser, mais
en effet.
Vous avez raison que, et l'auditeur qui vous a posé la question pose une très, très bonne question. Et ça revient à se demander aussi, est-ce que le gouvernement de la CAQ a retenu quelque chose de tout l'exercice sur le scandale Satellite avec la commission d'enquête et le rapport qui nous a été déposé? Vous saviez que nous, on avait des réserves au début de l'exercice. Et la réalité, c'est qu'on a eu un rapport qui est très éclairant et qui contient des recommandations claires sur l'expertise qu'on doit bâtir au sein du gouvernement. Et sur le fait qu'on ne doit pas répéter les mêmes erreurs dans la gestion des dossiers numériques, de cybersécurité puis de transformation numérique. Et là, je veux juste redescendre sur le plancher des vaches pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. On parle aujourd'hui du dossier santé numérique, ce fameux dossier là, qu'on se dit, ben là, il faut qu'on arrive dans l'ère moderne, puis il faut qu'on réussisse à avoir un dossier numérique qui nous suit un peu partout, puis qu'on n'est pas toujours prêt avec des fax puis des dossiers papier là, qui fait qu'on n'a jamais notre dossier complet pour qui veut l'avoir. Ça coûte cher. On parle de sommes extrêmement importantes, de l'argent des Québécois qui est investi pour arriver là. Et là, on fait appel à quelqu'un qui a été au cœur de tout ce qui est devenu le scandale Satellite. Satellite, ça, c'était le logiciel, l'interface Internet qu'on a créé là, pour les clients de la Société de l'assurance automobile du Québec. Puis qui a coûté finalement 1,2 milliard de dollars, alors qu'il devrait en coûter moins que la moitié. Donc ça veut dire que c'est l'argent des Québécois. Et à la fin, on parle des services importants à la population. Donc c'est pour ça que ce dont on parle, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut retenir des leçons de ce qui s'est passé, de ce qui n'a pas marché. Puis c'est pas ça qui a l'air de se passer actuellement.
Ben, non, on est d'accord avec ça. Du moins, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce que, bon, certains ont un malaise et ils le disent dans cette slash nomination pour Alain Généreux au sein du dossier Santé Québec, un dossier numérique, encore une fois, qui est déjà passé de 265 à 403 millions de dollars, plusieurs mois de retard, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans le fait qu'il y en a qui est prêt à ouvrir un malaise, mais la ministre de la Santé, elle, se dit très, très à l'aise avec le fait que cet ancien acteur du fiasco SAQ-Click soit dans l'équipe.
Bien, elle disait, en chambre, il y a eu des discussions aujourd'hui là-dessus à la période de questions, et la ministre disait, bien, justement, lui, il est porteur, je la paraphrase, là, puis je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais elle disait, bien, il est porteur, justement, de cette expertise-là, puis ça crée un malaise parce qu'il pose les bonnes questions puis il met le doigt sur les bonnes affaires.
Bon, il avait vraiment posé les bonnes questions dans sa clique. C'est pour ça qu'il y a eu un minime dépassement de coûts.
Ben c'est ça le problème. D'un côté, Hein, il faut faire de la politique de manière nuancée, puis se dire, vous et moi, aujourd'hui, on n'est pas dans cette relation-là, puis on ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être que ce que dit la ministre est vrai, mais j'ai bien entendu votre réaction, parce que un des reproches qu'on fait, donc lui, la personne dont on parle, elle était au cabinet du ministre François Bonnardel quand lui, donc, s'occupait des transports puis du dossier Saclic. Et encore une fois, je veux nuancer. C'était l'époque où on a dit de la Société de l'assurance automobile du Québec qu'il y avait une culture du mensonge, qu'on cachait la vérité. Ça a été c'était le pic. Mm-hmm. Et que les moments où vraiment toute l'information était dans les mains du gouvernement, puis qu'il savait qu'il y avait des dépassements, puis là, c'est lui, le gouvernement, qui nous a caché la vérité. C'est un peu plus tard. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il était à une époque où c'était très difficile d'avoir la vérité de Saclic. Néanmoins, ce que la commission dit, c'est que il y avait des indices, puis il fallait poser des questions, puis il fallait pousser plus loin parce que c'était déjà des centaines de millions de l'argent des Québécois. Alors, je comprends, moi, les gens de Santé Québec qui disent, là, nous, on a un malaise, que ce soit les mêmes personnes qui soient impliquées, alors que la commission nous dit, ne reproduisons pas les mêmes façons de faire, il faut voir les choses autrement. J'ajoute une couche pour nos auditeurs. Moi, j'ai commencé ma carrière politique pas longtemps après que je sois arrivé comme député avec un baillon sur le projet de loi 15 qui réformait le secteur de la santé. Et ça accouchait surtout de Santé Québec. Puis Santé Québec, là, c'est un nouveau monstre bureaucratique. Et là, regardez dans ce dossier-là ce qui se passe aussi. C'est que c'est supposé être Santé Québec qui s'occupe de ce dossier informatique. Et on apprend par la voix des médias aujourd'hui que le ministère s'est encore gardé une partie du travail. Et là, il y a encore un jeu où on se renvoie la balle, puis on se renvoie les responsabilités de supervision. Et c'est justement ce que la commission sur l'enquête Saclic nous dit. Il faut éviter de multiplier ces acteurs-là, puis de ne pas avoir l'expertise. Il faut centrer l'expertise, puis il faut centrer la gestion de ces contrats-là. Ce sont des centaines de millions de l'argent des Québécois qui sont en jeu. Et c'est la qualité des services dans le domaine de la santé qui est aussi en jeu.
Non, en effet, vous avez entièrement raison. Puis c'est à souhaiter que le prochain gouvernement va suivre ces recommandations-là. Parlant de prochain gouvernement, vous êtes maintenant nez à nez dans les sondages avec le Parti libéral du Québec. Je sais que vous allez me dire qu'on ne commande jamais les sondages, mais n'empêche, est-ce qu'on regarde adéquatement ou plus précisément la stratégie au Parti québécois pour les prochains mois pour pouvoir justement gagner ces élections-là?
Bien, notre objectif, c'est évidemment de gagner les prochaines élections et vous allez me donner ça, puis je vous le répète à chaque fois, on travaille pas en fonction des sondages. Bien sûr que, comme tous les politiciens, on regarde les sondages, c'est une photo, ça démontre quelle est l'humeur des gens, puis comment ils voient les choses.
Oui, mais là, jase, M. Paradis. Chef, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, là, il va-tu devenir un petit peu plus charmant puis moins fâché? Toujours fâché,
parce qu'il
médias.
A commencé avec un bon ton. Il s'exposait bien au-dessus de la masse politicienne là, en étant avec une patience hors pair.
Bien, il continue à le faire. C'est sûr que nos adversaires politiques ont intérêt à insister sur un certain nombre de choses, mais voyez à quel point actuellement, d'abord, on arrive avec un programme vraiment d'une grande solidité. Hein. On avait notre congrès il n'y a pas longtemps. On a discuté de centaines de résolutions sur tous les secteurs. Santé, éducation, infrastructure, sécurité, services sociaux, économie. Moi-même, je suis arrivé, j'ai contribué à préparer donc notre plan pour les PME. On est arrivé avec un programme qui change toute la donne en matière économique. Hein. On dit on met fin au bar ouvert des subventions où on a perdu des milliards, puis on remplace ça par un allègement fiscal pour nos PME. Donc, dans tous les domaines, on est là. Puis regardez les candidatures qu'on est en train de proposer. Des gens qui excellent, qui sont parmi les meilleurs dans leur domaine, qui s'engagent notamment parce qu'ils disent « Voici le programme qu'il nous faut pour le gouvernement du Québec, puis voici aussi le projet de société que ça nous prend, puis ça s'appelle l'indépendance du Québec. » Donc ça se fait dans le sourire, ça se fait dans le... On est constructif, on est en avant. Et c'est ça le Parti québécois aujourd'hui là, qu'on offre aux gens qui nous écoutent.
Monsieur Paradis, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé
oui,
à l'émission. On en jase. On va se reparler certainement avant le début de cette campagne électorale. Je vois que ça chauffe également sur Québec 125 dans votre comté de Jean Talon. Alors, ça va être une course électorale à suivre très intéressante.
Mais je vous affirme que je vais gagner Jean Talon. Alors, je vais être... J'espère avoir l'occasion très longtemps encore de dialoguer avec vous.
J'adore votre confiance. Merci, M. Paradis. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, Pascal. Il y a la circulation.
Oui, c'est sur l'autoroute 20 Est, hauteur route du président Kennedy, la 73, le 173. La voie droite est bloquée, sortie de route. On est sur place, mais ça augure un peu mal pour le retour à la maison. Là, il y a déjà beaucoup de gens sur les routes, puis il y a eu des petits accros ici et là. Puis ça fait en sorte que les secteurs sont chauds. Et Jean-François, déjà là, à 13h43.
J'aimerais juste dire en 30 secondes à quel point je suis déçu. Il y avait une grosse annonce sur le logement aujourd'hui. Tu nous en as parlé bien en masse dans les nouvelles. Je viens de parler avec notre collègue Mathias Turcotte, pas de scrum du maire Marchand. Il est venu à l'annonce, puis il s'est sauvé comme un voleur.
Ah, il n'a pas voulu se présenter.
Il n'a pas voulu se présenter devant les journalistes. Monsieur Marchand, faut répondre de vos actes. Vous êtes le maire de Québec. Soyez présent pour les citoyens. C'est votre responsabilité. Je suis vraiment très, très, très déçu du comportement de notre maire de Québec.
Je l'avais vu dans les médias américains, Jeff, mais ça commence à tourner pas mal dans les médias québécois. En fait, Pam Bondi, qui a été congédiée par Donald Trump à titre de procureur général, ça s'est passé dans les derniers moments. Elle a été démise de son poste et on a confirmé l'information, là, entre autres publications sur Truth Social de la part du procureur général adjoint, Todd Planche. C'est le fait qu'elle aurait mal piloté le dossier Epstein, selon Donald Trump, qui a fait en sorte qu'elle l'a renvoyé, ça crée énormément de réactions. On n'est pas à la première fois où Donald Trump congédie quelqu'un de haut placé dans son gouvernement. Il a souligné qu'elle occupera prochainement un nouveau poste, mais assez important, nécessaire dans le secteur privé.
Merci beaucoup, Pascal. Courte pause à Boulevard 101. On s'entretient avec Christine Labrie sur son projet de loi concernant justement la garde des enfants pour des conjoints qui sont violents. L'émission L'Enjase qui tire à sa fin. Il est 13h50. Le retour de Denis avec Denis, Audrey et Gab Marino sera là à compter de 14h. Véro Bergeron revient mardi et Kat Bachand accompagnera Max Larouche maintenant dans le point de Max de 10h à 11h. Encore un peu de circulation, Pascal Cyrus?
Eh oui, ça paraît que c'est jeudi de
c'est
Pâques.
C'est le long congé!
Autoroute 20 Est, hauteur route du président Kennedy, c'est la route 173. La voie de droite est bloquée, donc il y a eu une sortie de route. Faites attention. J'ai l'impression, Jeff, à voir le réseau routier depuis le début de l'émission, que c'est peut-être glissant par secteur. Là.
Ça se peut fort bien. Elle a déposé un projet de loi très intéressant aujourd'hui à l'Assemblée nationale concernant la garde des enfants et les conjoints violents. Et on l'a au bout du fil, la députée de Sherbrooke pour Québec solidaire, Christine Labrie. Madame Labrie, merci d'être disponible pour nous.
Ça me fait grand plaisir.
Madame Labrie, expliquez-nous votre plus concrètement votre projet de loi. Moi, ce que j'en comprends, c'est qu'un conjoint qui serait violent, là, je vais donner un exemple classique, un mari qui a battu sa femme, bien, on ne serait pas obligé, le droit parental ne serait pas obligatoire d'envoyer l'enfant une semaine sur deux à ce conjoint-là qui est violent et il y a des risques pour les enfants.
Effectivement, c'est un peu le problème qu'on veut régler parce qu'en ce moment, dans la jurisprudence, ce qu'on voit, c'est que les tribunaux ont tendance presque en tout temps à attribuer une garde partagée ou en tout cas des contacts avec les deux parents, alors que c'est assez clair là que c'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'être en contact avec un parent qui a été violent avec l'autre parent. En soi, ça nous dit que ce parent-là qui a choisi d'exercer de la violence au sein de la famille n'a pas des bonnes compétences parentales. On devrait pas lui confier l'enfant. Et donc, ce qu'on vient préciser avec le projet de loi, c'est d'inscrire dans le Code civil que c'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant que les deux parents là, exercent la garde. C'est une recommandation qui était dans le rapport Rebâtir la confiance qui a été déposé en 2020. Il n'y a pas eu de suite encore pour cette recommandation-là. Donc, moi, j'invite le gouvernement à respecter l'engagement qu'il avait pris, finalement, là, de donner suite à l'ensemble de ce rapport-là, puis de porter attention à mon projet de loi.
Est-ce que ça va également inclure la violence psychologique qui, des fois, est vécue, là, justement, par des hommes, la violence physique étant plus vécue par des femmes?
Dans le projet de loi, on parle de violence familiale. On est dans le code civil, hein, donc ça implique pas nécessairement qu'une infraction criminelle ait été commise. Mais on sait que de toute façon, en ce moment, le code criminel est en train d'être modifié, probablement pour rajouter la notion de contrôle coercitif qui comprend là, la violence psychologique. Nous, ce qu'on souhaite finalement, c'est que quand il y a eu de la violence, peu importe la forme que cette violence-là a prise, ça devrait être aux parents qui ont commis cette violence-là de faire la démonstration s'il veut avoir la garde. Le fardeau de la preuve devrait reposer sur ses épaules, alors que c'est pas le cas en ce moment.
C'est quoi les principaux obstacles que vous rencontrez dans tout ça?
Ben, je vous dirais, moi, ce que je vois là, depuis les dernières années, c'est régulièrement des victimes qui me disent que elles se sont fait recommander par leur avocat ou même par un intervenant de la protection de la jeunesse de retirer leur plainte ou de ne pas en déposer parce que ça pourrait leur nuire pour obtenir la garde de leurs enfants. Puis malheureusement, c'est vrai, c'est ce qu'on constate dans la jurisprudence. C'est vrai que ça peut nuire à des victimes là, quand elles ont dénoncé cette violence-là. Donc moi, c'est ça le principal problème que je vois en ce moment. On a un gouvernement qui s'est montré sensible dans les dernières années aux enjeux de la violence conjugale. Donc moi, j'anticipe, en tout cas j'espère avoir de l'ouverture de la part du gouvernement pour ce projet de loi-là. La session se termine dans quelques semaines seulement, mais le projet de loi est très court, 3 articles seulement. Donc si jamais il y a de l'ouverture du côté du gouvernement, ça pourrait aller très très vite.
Dans le processus avec votre projet de loi, est-ce que c'est une personne indépendante qui va venir évaluer le tout, par exemple, pour retirer la garde d'enfant à un parent qui serait violent?
Ça reste une décision du juge. C'est toujours le juge qui va trancher. Nous, l'indication qu'on vient donner au juge, puis c'est notre responsabilité comme législateur, hein, quand on écrit les lois, c'est les juges qui les interprètent, mais nous, on leur donne un peu des indications. Puis l'indication qu'on vient donner ici, c'est que on peut pas présumer que c'est dans l'intérêt de l'enfant d'être en contact avec ses deux parents, essentiellement. Donc, le juge va avoir tout le loisir d'analyser la situation. Puis, on dit aussi au juge quand il y a eu un parent qui est reconnu auteur de violence, sauf dans certaines situations où ce parent-là violent a démontré, a répondu à certaines conditions, il ne devrait pas en avoir la garde. Donc, l'entièreté de l'analyse reste entre les mains du juge, mais le fardeau de démontrer que la personne peut avoir la garde, même si elle a été violente, ça va vraiment être sur les épaules de cette personne-là. Et en ce moment, c'est pas le cas, malheureusement.
Madame Labrie, on vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez accordé pour nous expliquer ce projet de loi-là. Bien sincèrement, je trouve que c'est une superbe initiative. Il faut protéger nos enfants. Et ça va exactement dans ce sens-là, votre projet de loi.
Exactement. Bien, je vous remercie beaucoup.
Merci. Au revoir. C'était Christine Labrie, députée de Sherbrooke pour Québec solidaire, avec un projet de loi qui, à mon sens, à moi, vient vraiment répondre à une problématique sociétale, c'est-à-dire la protection de nos enfants.
Ça vient vraiment bousculer aussi le principe de la DPJ, par exemple. Fait que c'est là que je me dis, je pense qu'il y a des barrières qui vont être difficiles à faire lever. Là, parce qu'habituellement, c'est tout le temps, on présume que le parent doit être dans la vie de l'enfant.
Exactement. Oh oui, c'est tout le temps, cette façon de procéder-là. Mais je pense qu'on est dû pour venir la casser avec ce qu'on entend, ce qu'on voit dans les dernières années, notamment des drames conjugales.
Absolument. On y reparlera.
Ah oui, on va y reparler à Christine Labrie, c'est clair. Là, avait une courte disponibilité aujourd'hui. Pascal, on surveille quoi pour l'actualité cet après-midi?
Bien, assurément, ce qui se passe aux États-Unis avec le congédiement de Pam Bundy de la part de Donald Trump. Il a limogé sa ministre de la Justice. C'est terminé. Elle aurait appris la chose hier avant le discours à la Nation. Il dit elle va bien aller. Elle s'en va dans un haut poste au privé.
Et voilà.
Assurément qu'aujourd'hui, ce qui a marqué tout le monde, c'était le départ, si on veut, officiel de François Legault de l'Assemblée nationale. C'était son dernier discours. Il y a eu bien des collègues qui en étaient émus, entre autres Simon-Jolin Barrette, qui a été très, très, très émotif. Aujourd'hui, il en a pleuré, vraiment. Il avait de la misère à parler. Alors, on salue assurément le premier ministre qui termine sa danse politique pour finalement laisser danser Mme Fréchette et M. Drainville pour la suite des choses.
Exactement. Canadiens contre Rangers ce soir, 19h sur les ondes de RDS. 6 victoires consécutives pour le Canadien de Montréal. Et pendant le long week-end, vous rappelez vendredi soir que les Remparts vont disputer leur 5e match de leur série contre les Islanders de Charlottetown. La série est égale à 2 victoires de chaque côté. Pascal Cévon, t'écoute demain matin dans l'actualité. Ne prends pas congé avec Mathias à 7h.
Oui, sans faute.
Puis sinon, je te souhaite un excellent congé de Pâques. Et à vous aussi, chers auditeurs, le retour de Gravel suit un instant avec Denis Gammarino et Audrey. Bye-bye, guys!